Vous écoutez le Libre Journal de Serge de Bekech avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 19 avril 2006 de 18h à 21h, en différé jeudi 20 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce Libre Journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85 ou par télécopieur au 01 46 51 21 82.
Amis de la Résistance, bonsoir.
Résistons, résistons.
Vous l'avez reconnu ? Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir, monsieur. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, madame. Alors, les bonsoirs que vous venez d'entendre d'abord le bonsoir de madame Victoria.
Ça va, si ? Bonsoir, Serge. Ça va.
Ça, vous êtes rien cassé.
Ça s'arrange petit à petit.
Vous n'avez rien trouvé de nouveau à casser ?
Non, pas encore. Attendez.
On n'a pas le droit de dire que Victoria ne casse rien, quand même.
Non, 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 c'est vrai.
De toute façon, on ne dira pas, parce que c'est pas vrai.
Oui, qu'est-ce qui se passe? Ah, nous avons au téléphone quelqu'un, alors je ne vais pas perdre de temps, je vais continuer à faire quand même les présentations des bonjours. Le deuxième bonjour, c'était celui du marquis, chéri guest de Olmeta, monsieur le marquis, j'ai bien l'honneur de vous saluer.
Ah, monsieur le comte.
J'en êtes un autre. Le troisième bonjour, c'était celui de monsieur Christian Sébène. Monsieur Christian Sébène est directeur du magazine, il est propriétaire du magazine Africain International, et il nous racontera ses mésaventures, parce que d'abord on va parler de la presse francophone en Afrique et française en Afrique, et je pense qu'il y aura des choses intéressantes qui nous seront racontées, et vous verrez que c'est pas toujours facile d'être directeur d'un journal. C'est pas pour moi que je parle, parce que moi je suis pas directeur.
Non, bien sûr, et puis vous, ça marche tout seul.
Oui, parce qu'il y a une dame qui s'en occupe. Mais...
Et puis les collaborateurs, quand même,
c'est, bah oui,
c'est pointu.
Trié sur le volet.
Voilà, mais cette émission aurait été plus joyeuse si elle n'avait pas été placée sous le signe d'un deuil récent qui nous fait beaucoup de peine à tous, qui est la disparition de Marie-France Tirebois, à laquelle je dédie cette émission par conséquent, mais je trouve qu'en ce moment les dédicaces de ce genre se multiplient avec une insistance un petit peu gênante entre Lamazière, Pierre Monnier, Mabir, ça commence à faire beaucoup pour un petit laps de temps. J'ai au téléphone Jean-Claude Frappa. Jean-Claude Frappa, qui est un entrepreneur, chef d'entreprise niçois, et qui a accompagné Marie-France dans les derniers moments de sa vie. Jean-Claude, bonsoir.
Bonsoir, Serge.
Comment allez-vous ?
Eh bien, comme on peut aller dans ces circonstances-là, une grande tristesse nous a tous envahis, tous mes amis, tous les amis de Marie-France. Nous sommes submergés de coups de téléphone du matin au soir, ça vient de partout.
Alors pour les auditeurs qui ne seraient pas au courant, je rappelle que Marie-France Tirebois a été une des figures éminentes de la droite nationale. Elle a commencé à militer toute jeune quand elle était étudiante à Nanterre. Elle est d'une famille, curieusement, elle est d'une famille gaulliste, je crois, hein. une famille de résistants gaullistes qui, eux, n'ont jamais rejoint les rangs naturels des patriotes. Ils sont restés gaullistes, bon, c'est leur affaire. Marie-France, elle avait rejoint le Front National très tôt, elle était solidariste, elle a épousé Jean-Pierre Stirbois qui est mort dans un accident de la route, et qui a été une des grandes figures aussi du Front National. Et puis, depuis quelques années, elle était installée dans le Midi, où elle avait pris en main, avec vous je crois, Jean-Claude ?
Oui, c'est ça, Serge, oui.
Le maintien, et là on peut dire également la renaissance du mouvement national dans le Midi. Et je voudrais que vous nous disiez qui elle était, comment elle travaillait et à quel point elle était attachée à son travail de militante.
Écoutez Serge, si vous permettez, je vais répondre à votre question un petit peu en la mettant d'actualité. Tout d'abord, si vous permettez, je ne sais pas le temps que vous vouliez m'allumer, mais elle souffrait depuis pratiquement un an. Elle commençait, et ça a commencé à la veille du 1er mai 2005, au défilé de Jeanne d'Arc, qu'organise tous les ans, comme vous le savez, le Front National. Et ses premiers symptômes de cette maladie assassine se manifestèrent à cette occasion. En but à cette date, à l'insupportable douleur physique qui rendait très pénible sa position, elle ne pouvait plus endurer l'état moral dans lequel elle se trouvait. Ensuite, elle était détériorée par ses relations avec Jean-Marie Le Pen, et les brimades d'en suivre, ça n'a pas arrangé les choses. Marie-France, à cette occasion, d'ailleurs du 1er mai, avait envisagé de ne pas se déplacer à Paris, pour la première fois, à ne pas se joindre à sa famille idéologique pour fêter en sa compagnie le souvenir de l'héroïne nationale, Jeanne d'Arc. Elle n'en fit rien. Une fois encore fidèle à ses engagements, consciente de son rôle au sein de notre mouvement, mue par une volonté exceptionnelle, méprisant les souffrances, défiant la maladie, elle prit sa place dans le cortège. 12 mois après, presque jour pour jour, Marie-France nous a quittés.
Il y a une dimension d'elle que ceux qui l'ont bien connue n'ignorent pas, mais que le public méconnaît parce que il la voyait certainement comme une femme, comme c'était une femme. C'est une jolie femme, elle était très séduisante et très d'apparence assez douce, encore qu'elle avait un regard qui démentait cette douceur apparente. On voyait bien que c'était pas quelqu'un de faible, mais c'est cette dimension méconnue, c'est son extraordinaire résistance, son extraordinaire courage en face de toutes les difficultés de la vie. Moi je me souviens de quand on était tous beaucoup plus jeunes, le courage physique dont elle faisait preuve dans les manifestations, le courage moral dont elle a toujours fait preuve dans son activité militante, et puis le simple courage intellectuel dont elle a fait preuve dans toutes les circonstances où elle était affrontée à des difficultés, soit de relations, soit de contacts, soit de vie quotidienne. Et c'est le métier politique, c'est un métier extraordinairement difficile, extraordinairement ingrat.
Absolument.
C'est une guerre civile permanente, dont les pires moments sont quand cette guerre civile se déroule à l'intérieur de son propre camp, bien entendu. Oui. Et elle a toujours eu beaucoup de courage et beaucoup de détermination. C'était quelqu'un qui ne cédait pratiquement sur rien.
Eh bien, écoutez, Serge, si vous permettez, je vais vous faire confidence de ce courage et de ce dernier courage. Lors de sa maladie, elle est restée la même, celle que vous venez de citer. En donnant des ordres à ses fidèles amis, à ses partenaires, à ceux avec qui elle travaillait. Et ces derniers mois, elle a passé pratiquement près de 4 mois dans les hôpitaux et les cliniques. Elle transformait sa chambre d'hôtel en annexe de bureau, avec les coupures de presse, les journalistes au téléphone, les divers classeurs du municipal et les instructions pour les votes à venir. Et ses amis, ses collaboratrices, Isabelle, Lucette, se souviennent très bien d'un après-midi où, par exemple, submergée de dossiers, elle était assise au bord de son lit médicalisé, toute fraîche, maquillée, comme à son habitude. Avec ses sacs débordants de papier renversés plus ou moins par terre, recommandant de les classer à ses collaboratrices selon ses instructions, et cela jusqu'à mon arrivée, bien souvent le soir, avec Jo et Corinne, qui portaient le joli panier du soir pour le dîner. Marie-France, comme vous l'avez dit, avait demandé dès son hospitalisation que tous ses amis soient autour d'elle, et de ce fait, nous avions pris l'habitude de manger un sandwich dans sa chambre, tout simplement. À ce moment-là, nous savions que le but était atteint. Son sourire radieux et son rire moqueur nous ravissaient. Et quand elle nous disait « comme je suis contente de vous voir », ça nous comblait. Et tout ça ajouté à sa beauté, à sa gentillesse, lors de ces moments intenses, bien souvent la souffrance la rejoignait. Elle se dressait sur son lit et jurait comme un charretier. C'était bien la preuve qu'elle se battait pour vivre, et nous le souhaitions tous tellement. Voilà ce que c'était que son courage. Elle était en plus d'une gentillesse extrême, vis-à-vis du personnel soignant, se liant d'amitié, donnant comme à son habitude des conseils aux jeunes infirmières, expliquant à son kiné pourquoi il fallait voter Front National. Elle réconfortait au passage une militante de Cannes-sur-Mer, je crois, qui se trouvait dans un fauteuil roulant à la suite d'une attaque. Enfin, Serge, tous ces faits et gestes nous reviennent en mémoire. Au fur et à mesure que la vérité implacable se dresse devant nous, et que malgré son courage, malgré sa bataille, malgré son combat, elle a bien sûr inévitablement perdu. Oui, Serge, Marie-France, nous t'aimerons à jamais.
Excusez-moi. Merci, merci Jean-Claude. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne va pas parler ce soir de l'avenir. C'est un peu tôt pour essayer de réfléchir aux conséquences de cette disparition. Mais je vous ferai signe de nouveau pour une émission prochaine pour que vous puissiez nous éclairer sur ce qui va se passer maintenant en région PACA. C'est une région qui est quand même très très importante pour le mouvement national.
Oui.
Surtout dans la perspective de la prochaine présidentielle. Et il est évident que la situation créée par la disparition de Marie-France va certainement demander un gros travail de remise en ordre dans la région.
Et Marie-France, c'était et ça allait devenir encore plus notre fer de lance. Fer de lance de la PACA, mais aussi fer de lance, je crois, à l'échelon national, parce que sans elle, j'ai l'impression que les ennuis vont continuer.
Merci Jean-Claude, merci de votre gentillesse, merci d'avoir accepté d'intervenir alors que nous savons, enfin moi je sais en tout cas quelle peine est la vôtre. Et puis je vous dis à très bientôt.
Merci Serge.
Au revoir.
Au revoir.
Prière des Francs. Dieu Tout-Puissant et Éternel, qui avez constitué l'Empire des Francs comme instrument de votre sainte volonté à travers le monde, et comme épée et bouclier de votre Sainte Église, nous vous en prions, guidez de votre céleste lumière, toujours et partout, les fils des Francs suppliants, afin qu'ils voient ce qu'ils ont à faire pour réaliser votre règne en ce monde, et que pour accomplir ce qu'ils auront vu, ils grandissent avec persévérance dans la charité et la force.
Voilà, je communiquerai dans le Libre Journal, je n'ai pas encore ces informations d'une façon très précise, la date et le lieu de la cérémonie religieuse qui sera célébrée en mémoire de Marie-France. Elle sera inhumée demain, pardon, à Villeneuve-Loubet, je crois, mais c'est une réunion strictement familiale, et donc sera célébrée ensuite une messe à Nice. Une messe publique, si j'ose dire, une messe non plus privée, mais ouverte à tous les militants, à tous les sympathisants et à tous les gens à Nice, pas seulement militants et sympathisants du Front National qui aimaient Marie-France et qui la connaissaient. Et puis à Paris aussi, dans un lieu qu'on vous indiquera, dès que j'en serai informé, il y aura une messe pour réunir tous les Parisiens autour de ses amis, y compris d'ailleurs, je crois, ceux avec lesquels, dans les derniers temps, elle a eu des difficultés, des désaccords qui étaient, je répète, des désaccords, ça paraît tout ça bien, bien, bien subalterne, mais puis ça fait partie de la vie politique, on peut pas être d'accord tout le temps avec tout le monde, c'est absolument impossible. Je dois dire d'ailleurs que moi-même, je ne suis pas toujours d'accord. J'ai lu hier soir le livre de Marine Le Pen qui s'intitule « Un contre-flot », qui est un livre qui est remarquablement écrit, qui montre bien que, de manière totalement indiscutable, il est en train de se passer à l'intérieur du front un bouleversement tout à fait considérable, un changement de ligne, un changement d'ambiance, un changement de contenu à la fois politique, social et même, je dirais, philosophique, si on peut employer ce mot-là pour parler de politique, un changement qui va bouleverser très probablement en profondeur la réalité sociologique du Front National dans les semaines à venir ou dans les mois à venir, parce que il y a une dimension qui est en train de disparaître du Front, semble-t-il, et en tout cas c'est ce que semble revendiquer hautement Marine Le Pen dans son livre, c'est la dimension spirituelle, chrétienne. Alors elle dit qu'elle est croyante, bien sûr, mais qu'elle a acquis à travers des expériences négatives dans ses relations avec certains milieux ecclésiastiques une espèce de détestation de l'Église, mais elle prêche pour une laïcité absolue du Front National, ce qui me paraît, moi, une fausse voie, dans la mesure où ce qui fait l'original justement du Front National, c'est que c'est un parti qui incarne, par certains côtés, par certains aspects, la permanence de la tradition catholique en France, de la tradition chrétienne en France, et l'imprégnation chrétienne de toute notre vie, de toute la vie de la France, de la réalité française. Et nier cette réalité ou la refuser, ça me paraît absolument incompatible avec une conception conception charnelle de notre pays. Je ne sais pas très bien comment les choses vont bouger à partir de cette conception laïciste qui fait que Marine Le Pen dans son livre consacre plusieurs pages à insister sur la splendeur de la République et à célébrer la magnificence de la devise républicaine, liberté, égalité, fraternité, dont elle dit que la France a réalisé l'impossible alliance et l'impossible cohabitation, ce qui me paraît relever du vœu pieux. Elle sait très bien qu'on ne peut pas vivre dans un pays à la fois libre, fraternel et égal, que l'égalité se fait toujours au détriment de la liberté, que la fraternité se fait au détriment de l'égalité, ou contre l'égalité, et que par conséquent ces trois mots sont des oxymores, et que les rapprocher les uns des autres, ça provoque ce qu'on voit aujourd'hui après deux siècles de république libre, égale et fraternelle, c'est-à-dire un gigantesque bordel dirigé par des mafieux pourris. Et si c'est pour continuer ce système de gouvernement mafieux pourri, c'est vraiment pas la peine de remettre ça entre les mains des gens qu'on a aimés et qu'on a soutenus et qui sont les dirigeants de la droite nationale. Il faut laisser les gens de gauche et les pourris de la fausse droite s'en occuper. Ils font ça très bien. Voilà. Enfin, en tout cas, je vous conseille la lecture de ce livre qui est paru chez Grancher parce que il apporte des informations tout à fait intéressantes. Je veux dire qu'il est écrit d'une plume fort élégante. Et qu'il est d'une liberté de ton et d'une sincérité apparente, en tout cas, tout à fait frappante. Marine Le Pen ne passe absolument rien sous silence. On voit très bien à quel point elle a souffert de la situation qui était la sienne, qui a été une situation extraordinairement difficile de petite fille, puis de jeune fille, puis de jeune femme. Accablé d'injustice, de bassesse, de crapulerie, de canaillerie, par tous les gens qu'elle avait en face d'elle, que ce soit à l'école, auprès de ses camarades, au lycée, au collège, à l'université, dans l'exercice de la profession d'avocat, on voit ce que c'est que d'être la fille de Le Pen, et c'est véritablement quelque chose de très 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 difficile à vivre, et en même temps de très fort.
Elle a probablement envie justement d'en sortir. Et le bouquin, c'est pas la préparation déjà pour se retrouver au deuxième tour des élections.
Elle dit qu'elle ne sera pas finie.
Ah oui, d'accord. Parce que moi,
ce qui est amusant, c'est que sa camarade Chambaud, oui, qui devait écrire un livre sur elle, on n'en entend plus parler, mais fait un papier dans Le Monde, dont plusieurs paragraphes commencent par fini. Voilà. Marine Le Pen n'esquive plus la question de la succession de son père à la présidence du parti. Fini ses doutes de la pré-présidentielle. Fini ses fausses pudeurs, etc., etc. Et je connais suffisamment le style de Madame Chambaud pour me dire que l'utilisation de ce parti passé qui rappelle la trahison d'un renégat italien bien connu ne relève pas du pur hasard.
Mmh. Mais vous croyez pas que ça serait intéressant quand même d'avoir au deuxième tour la royale contre la marine?
Oui, vous avez tout à fait raison. Enfin, comme ça, ça me permettra de voter Marine Le Pen quoi qu'il en soit. Très jolie formule. Vous êtes doué quand même. Hein. Oh. Il improvise bien. Hein.
C'est bien.
J'avais peur de pas pouvoir le placer.
Voilà. J'avais pas du tout l'intention de parler aussi longuement du livre de Marine Le Pen, mais il m'a intéressé, voilà. Et notamment, alors il y a un chapitre qui est déchirant, littéralement déchirant, c'est celui où elle parle de Pierrette, de sa maman. Et on voit à quel point d'ignominie l'ennemi a pu descendre. Je dois dire d'ailleurs que ça n'a pas désarmé, puisque pour en revenir à Marie-France, je crois qu'hier, les fiottes d'Europe 1 ont dépassé le pire de ce qu'on pouvait imaginer, de ce qu'on pouvait les imaginer capables de faire, par des propos littéralement hémétiques. Enfin, ces gens-là sont véritablement des... je peux même pas dire ce que c'est, parce que je serais forcément poursuivi, mais c'est quelque chose de très 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 sale et très répugnant. Je parle de Stevie, de Ruquier, de toute cette bande.
J'étais en train d'y penser parce que j'ai entendu ce qu'ils ont dit, c'est son... Enfin bon, oui.
Je pensais à Stevie, cette espèce de petite crevette, là, qu'on avait vu à la télévision pleurer parce qu'on lui avait volé son nounours, quelque chose d'approchant.
Bourriquet s'appelle.
Bourriquet, oui, bougre de Bourriquet. Et je pensais, il a dit une chose qui mériterait, si on n'avait pas peur de se salir les mains, une fessée, une paire de claques.
Donc ne lui faites pas plaisir.
Ouais. Il a dit j'aime beaucoup parler de ces gens-là dans des conditions dans des conditions comme celles d'aujourd'hui.
Oui, c'est vrai, quand quelqu'un est mort.
Ouais. Alors je regardais ce petit bonhomme et je me disais on est en 2006, donc il y a 80 ans. 90 ans plus exactement, en 1916. Des types de son âge étaient dans les tranchées et se faisaient bouffer tout vif par des rats.
Voilà.
Et ils restaient dans la tranchée, l'arme au pied, prêts à mourir pour défendre la France, en disant « Oui, je suis prêt à me sacrifier parce que je veux que mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants, puissent vivre dans un pays libre. » Et puis... Je lisais tout à l'heure une interview d'un des derniers poilus, 109 ans, qui a reçu deux fois la croix de guerre, une fois en 14-18, une fois en 39-45, quand même pas mal.
La gourmandise.
Oui. Qui à 109 ans dit « Je n'arrête pas de penser à ces gosses de 20 ans
voilà, ouais,
qui sont morts pour rien. » Et je me dis effectivement que les gars de l'âge de Bourriquet qui sont morts à 20 ans dans les tranchées bouffés vivants par des rats, pour que Bourriquet puisse venir poser sa petite crotte.
Et se faire troncher, puisqu'on va à une lettre près,
oui,
restera.
J'ai posé sa petite crotte dans les oreilles des auditeurs de l'Europe numéro 1. Ils doivent se dire de là-haut que finalement, c'était vraiment pas la peine de se faire chier comme ça, pour un résultat pareil.
Oh, vous faites peut-être beaucoup d'honneur à ce petit jeune homme qui passera comme le reste.
Oui, je pense qu'il va passer. Oui. Il va passer à la casserole, ça sera
pas la
première.
Moi, je le trouvais tout à fait sympathique, mais là, maintenant, c'est terminé complètement.
C'est quelqu'un d'assez dégoûtant. Hein.
Oui.
Voilà un message. La vocation de Radio Courtoisie visant à réconcilier les droites n'est-elle pas une utopie nuisible et stérile? Ce sont des hommes et des femmes politiques de... Tenez, je vous laisse lire, parce que...
Mais écoute,
je m'étrangle.
J'espère que c'est pas la teneur du message qui fait que vous vous étranglez. Non,
non, c'est ma vieille cochonnerie. Qui...
La vocation de Radio Courtoisie visant à réconcilier les droites n'est-elle pas une utopie nuisible et stérile? Ce sont des hommes et des femmes politiques de droite qui ont commis les actes néfastes qui déterminent l'hostilité d'une grande partie de la droite, mais aussi de la gauche patriotique. 1. L'Union européenne totalitaire qui tue la France. 2. La TVA qui tue les PME et l'emploi. 3. Le regroupement familial qui tue notre identité et mine notre fraternité. 4. L'avortement qui tue nos vrais compatriotes dans le sein même de leur mère. Cette droite criminelle est aussi mondialiste et antipatriote que les socialo-communistes. Radio Courtoisie devrait s'employer à rassembler les patriotes de droite comme de gauche, tels Zuccarelli, Chevènement, etc., qui ont dit non lors du récent référendum. Cette union-là, patriotique et sinon majoritaire, du moins à mon avis, le premier serait à mon avis le premier parti de France. Merci. Un auditeur marseillais. Ah ben, on se disait bien que oui.
Non, mais je suis assez d'accord avec ça. Je crois d'ailleurs que c'est un peu ce qui se passe. Il m'arrive de rencontrer des... D'ailleurs, il nous arrive, mon cher Marquis, de rencontrer des auditeurs de Radio Courtoisie qui sont pour le moins inattendus. Mmh. Hein, parce que les gens qui croient que Radio Courtoisie, c'est la radio de l'extrême droite, il ferait bien de nous suivre dans certaines pérégrinations
oui,
où on rencontre des types,
des
on rencontre des jeunes anarchistes, des socialistes, des vieux cocos qui nous disent « Ouais, on n'est pas d'accord avec vous, mais enfin quand même, c'est à peu près la seule radio qu'on peut écouter sans se salir les oreilles. » Et donc, il y a de ça, il y a cette idée, effectivement, d'une défense permanente de la tradition, de la civilisation, de la culture et de la langue française, à travers des propos qui sont parfois un petit peu vigoureux ou un petit peu à contre-courant.
Allez, gaulois, quoi, n'ayons pas peur des mots. Simplement gaulois.
Voilà, donc c'est pas faux, mais...
Et tous les vieux cocos que je connais, moi, ils sont gaulois. Hein.
Oui.
Mes vieux copains syndicalistes qui s'occupent des plous sur les hippodromes, c'est des bons gaulois.
Oui, bien sûr.
Voilà.
Bien sûr. Quand on va à la mutualité, il est plus là, mais il y avait un vieux militant cégétiste coco qui m'accueillait toujours en me disant « Ah, mais je suis bien content de t'avoir. Toi, au moins, tu as des... » Alors, il y a un mot...
Oui.
Que dont je me souviens plus exactement, mais
on prononce en principe pas sur Radio Courtoisie, sauf exception.
Voilà, mais il était très gentil, il était d'accord à peu près sur rien, mais ce qui lui plaisait, c'était le ton de cette radio.
Voilà, c'est ça, bien sûr.
Voilà, bah, sur le ton, on va continuer.
Attendez.
Oui,
à propos du livre de Marine, ne pensez-vous pas que les propos contenus dans ce livre correspondent à une nouvelle présentation, voire à une mise en conformité suite à des accords passés par les puissances financières désormais favorables à la venue au pouvoir du Front National,
non.
Eu égard au désordre ambiant et aux baisses des chiffres d'affaires honni par définition par l'ordre mercantile?
Je crois pas à cette explication. Bon, il y a toujours effectivement des explications, complotistes ou occultes, de graissage de pattes et tout. Non, je crois pas. Marine, elle a quel âge? Elle a 35 ans.
Oui.
Et elle a ce comportement intellectuel d'une jeune fille de 35 ans qui a été élevée. D'abord, elle a payé quand même. Elle a souffert terriblement de cette situation. Donc je pense que, au fond d'elle-même, elle voudrait que ça s'arrête. Elle voudrait être considérée comme un être normal et pas comme une monstresse. Et puis d'autre part, elle a des idées de jeune d'aujourd'hui. C'est-à-dire que, bon, comme elle est... j'imagine qu'elle a une conception personnelle, très personnelle de la foi religieuse, eh bien, elle trouve que l'avortement... Elle n'est pas pour l'avortement, pour l'application de la loi Veil. Simplement, elle nous fait un grand couplet sur le racisme. Mais... elle nous explique que papa n'est pas raciste. Moi, je veux bien tout ce qu'on veut. Moi, je suis pas raciste non plus. Alors donc, ça me gêne pas du tout qu'on tienne ce genre de propos. Mais il faut s'entendre sur les mots. Qu'est-ce que ça veut dire être raciste?
Voilà, exactement.
Si être raciste, c'est considérer que il y a des différences entre les races. Bon, eh ben oui, je suis raciste. Si c'est considérer qu'il faut tuer tous les gens qui sont pas de ma race, ben je suis pas raciste. C'est tout. C'est une question de vocabulaire. Et moi, simplement, je pense que chaque race a ses spécificités, et que ce soit un Chinois, un Africain, un Juif, ou un Finlandais, chacun a ses caractéristiques, il a ce qu'il est, il doit être fier de ce qu'il est. Il n'est pas forcément enchanté d'avoir des petits-enfants multicolores. On n'est pas obligé non plus de faire une espèce de grand melting pot où tout le monde est beau, tout le monde est gentil, tout le monde est marron clair ou marron foncé. Ça me rappelle cette vieille blague de l'apartheid, vous savez, aux États-Unis quand on... On a décidé, enfin ils ont décidé que l'apartheid était supprimé dans les États du Sud. On raconte que dans les autobus, on mettait les enfants blancs à l'avant des autobus et les enfants noirs à l'arrière des autobus. Et le chauffeur du bus dit, bon les gars, maintenant c'est terminé, il n'y a plus de noirs, il n'y a plus de blancs, il n'y a que des bleus. Alors tous les bleus, vous êtes tous bleus. Bon, alors maintenant montez dans l'autobus, les bleus clairs devant, les bleus sombres à l'arrière. Voilà, c'est tout. Quant à...
La révolution bleue.
C'est la révolution bleue. Bleu cerise. Et quant à l'attitude de Marine Le Pen, pour en finir avec ça, je voudrais quand même rappeler un mot de Jean-Marie Le Pen, qui avait dit, à propos de ce que vous évoquiez, c'est-à-dire le fait que il y avait une évolution au sein du mouvement. J'y crois pas du tout, parce que je rappelle ce qu'avait dit Le Pen au mois de janvier dernier. Il avait dit Marine est bien gentille, mais sa stratégie de dédiabolisation ne nous a rien rapporté. Les médias nous ignorent. Un front gentil, ça n'intéresse personne.
Mais il résume bien les choses, en effet, bien sûr.
Et une auditrice vous dit, pouvez-vous nous mettre dans le libre journal la prière des Francs?
Ah oui, d'accord. Oui, bien sûr, je le ferai. Il est là, non? Ah bon, je crois qu'on attend un coup de téléphone, mais il est polo. Oui, alors, je vous interromperai un moment, si vous permettez, monsieur Seben, pour donner la parole à notre interlocuteur au téléphone. Mais voilà, alors, j'explique. Vous êtes, donc, j'ai dit, vous étiez propriétaire du magazine Africain International.
Oui.
Qui a été le premier magazine... au sens matériel du terme, c'est-à-dire c'est une espèce de, on peut dire express point Paris Match africain.
Oui, disons que
Excusez-moi, alors je vous interromps une fois de plus. Allô, Bruno?
Oui.
Oui, Bruno Gollnisch, bonsoir.
Bonsoir.
Je vous ai demandé d'intervenir pour dire quelques mots de Marie-France. Je vous prends au déboté.
Non, merci, au contraire.
Alors que vous êtes sur la route de Bruxelles, je crois.
Oui, enfin, je vais sauter dans le Thalys dans un instant, oui, qui va me conduire à Bruxelles. Merci, oui, de me permettre de dire quelques mots bien simples en souvenir de notre amie et d'une très grande combattante aussi de la cause nationale depuis très longtemps, depuis les comités Tixé-Vignancourt, et dont j'ai fait la connaissance alors que j'avais 18 ans à Nanterre dans des conditions extraordinairement difficiles, puisque nous étions confrontés à Cohn-Bendit et aux bandes d'anarchistes, de trotskistes, de maoïstes, de communistes de toutes sortes, dans une université marxisée avec une majorité hélas silencieuse. Et c'est ce qui m'a permis de faire la connaissance de Marie-France Charles, devenue ensuite Marie-France Tirebois, et de faire plus tard la connaissance de son mari Jean-Pierre. Marie-France était une militante sincère de la cause nationale, et nous la pleurons tous, quelles qu'aient été les difficultés relationnelles qui aient pu naître à un moment ou à un autre. Ça, malheureusement, c'est la vie, mais je puis dire que tout le monde ici au Front National, sans réserve, exprime sa tristesse et sa compassion aussi pour ses enfants et pour toute sa famille.
Je crois que vous serez à ces obsèques demain, non? C'est à Villeneuve, c'est ça?
Oui, c'est la famille de Marie-France, et notamment ses enfants Christophe et Nathalie ont souhaité quelque chose de très familial, mais je crois savoir qu'un hommage sera rendu par ailleurs à Nice. Le surlendemain, et puis également sans doute à Paris, pour tous ceux en quelque sorte du nord de la France qui l'ont connu et aimé et qui souhaiteront prier pour elle tout simplement.
Et je crois que vous étiez vraiment un de ses plus vieux amis, hein. Vous nous dites que vous l'avez connu à 18 ans à Nanterre, au moment de la révolutionnette de 68.
Oui, oh, il en est de plus ancien puisqu'ils l'ont connu, au moment de la campagne Tixier-Vignancourt, ouais. Dont Jean-Marie Le Pen était le chef de campagne, à l'époque, je vous le rappelle. Moi, je l'ai connu, c'est vrai, dans les circonstances de l'université, c'était déjà une fille d'un courage extraordinaire, et il y en avait pas énormément, il faut bien le dire, à cette époque, et nous avons bien sûr sympathisé, nous essayions modestement de résister à la fureur gauchiste qui s'exprimait déjà d'ailleurs dans le vandalisme et dans le saccage. J'ai revu les images récemment de ces facultés qui ont été évacuées par leurs occupants. Enfin, et dont on s'aperçoit tout soudainement que ça s'est accompagné de vandalisme, de dégradation, de saccage. Mais je crois que le saccage et le vandalisme sont inhérents à la philosophie révolutionnaire en général et de la gauche en particulier.
Ce sont des vandales, oui. C'est exactement ça. Merci Bruno, je vous abandonne pour vous laisser prendre votre train pour Bruxelles.
Merci beaucoup.
Et je vous remercie d'être intervenu pour dire votre amitié pour Marie-France.
Mais c'est la moindre des choses. Merci de m'avoir permis de le faire. Au revoir Serge.
Au revoir. Voilà. Bon, Monsieur Seben, maintenant, je vous rends la parole et je vous ne la reprendrai plus. Donc, Africain International, dites-nous un peu ce que c'était.
Voilà, donc pour en revenir à votre question... Africain International a été créé en 1958 à Dakar et c'était le plus ancien média sur la sphère africaine parce que Jeune Afrique, qui est une référence en la matière, n'est apparu qu'en 1960 aux indépendances. Donc, si vous voulez... c'est un journal qui a commencé modestement, feuille de chou au départ, et puis en noir et blanc pour évoluer au fur et à mesure. Et il faut bien voir que suite aux indépendances, la France a eu des difficultés à se dessaisir de ses colonies et monsieur Jacques Foccart avait mis certains pions en place sur toute la sphère africaine et par le biais d'un outil qu'on appelait la cellule africaine de l'Élysée. Et bon, il y a donc eu monsieur Foccart, monsieur Guy Penn, monsieur Fernand Vibault et maintenant c'est monsieur de Bonne-Corse. Et Africa International, dans cette géopolitique, a intéressé, et c'est le moins qu'on puisse dire, la DGSE, parce que, si vous voulez, c'était comme Africa International, en s'étoffant, a couvert de nombreux pays. Aujourd'hui, on couvre 60-65 pays, avec les abonnements, c'est planétaire, donc ça représente quand même quelque chose. Et donc, c'est un outil de renseignement.
Ce que je crois comprendre, là, c'est que... C'est un journal qui était au départ
une feuille de chou,
un journal d'information, et puis, bon, disons les choses clairement, les services...
Pas tout de suite, hein, c'est venu plus tard, ça. Hein, c'est venu plus tard, notamment avec une personne qui s'appelait Monsieur Olivier, qui travaillait avec la DGSE à cette époque-là. Et je crois que la cassure s'est opérée fin 90.
Mais donc avant ça, le Foccart avait déjà mis fait main basse en quelque sorte sur le journal pour en faire un outil de l'action.
Disons que ça a été un outil de pénétration et de renseignement. La plus belle démonstration est faite dans ce fameux livre qui s'appelle Ces messieurs Afrique, qui est écrit par deux éminents journalistes qui sont Stephen Smith et Antoine Glaser, et dont Stephen Smith a travaillé longtemps au journal Le Monde, et Antoine Glaser est directeur de publication et éditeur des éditions Indigo, est connu plus spécialement pour la lettre du continent. Donc, dans ce livre, il est retracé l'histoire donc de cette France-Afrique à base de la cellule africaine de l'Élysée, et puis des réseaux parallèles mis en place et qui ont été omniprésents sur la sphère africaine, dont des personnalités qu'on retrouve dans le Club 89, à savoir Monsieur Michel Auriac, ancien ministre de la Coopération. Vous aviez ambassadeur colonel Monsieur Maurice Robert, qui était directeur de la DGSE Afrique, et on retrouve aussi des gens comme Monsieur Robert Bourgi, qui est conseiller libanais de Monsieur Jacques Chirac.
Alors, mais ce que je comprends pas très bien, parce qu'il faudrait que vous nous expliquiez, c'est comment vous vous êtes retrouvé propriétaire d'un journal qui en fait vous échappait dans sa...
Ah, tout à fait, j'ai été parachuté là tout à fait par l'opération du Saint-Esprit. C'est par le pur des hasards, si vous voulez. Moi je suis d'une famille d'Africains du côté de ma mère, parce que mes grands-parents étaient des pionniers en Côte d'Ivoire, et à ce titre, si vous voulez, j'ai jamais vraiment lâché l'Afrique. J'ai même servi militairement en Côte d'Ivoire, en Niger et au Tchad.
Votre père était général d'aviation.
Hein. Oui, général d'aviation, mais ça, c'est j'ai servi comme tout vous Français.
Très bien,
qui...
enfin, c'est pour montrer que vous êtes dans une tradition.
Tout à fait. J'ai même sauté sur les genoux du colonel Bastien Thierry quand j'étais petit, c'est dire que Jacqueline Auriol aussi. Donc, ouais. Et pour nous, Bastien Thierry représentait certaines valeurs. Je m'excuse, beaucoup de monde ne sera pas d'accord avec moi, mais
si vous risquez pas grand-chose.
Voilà, je dis ce que je pense. Donc j'ai atterri par le pur des hasards en ce sens que j'ai rencontré la rédactrice en chef de ce magazine qui s'appelle toujours Madame Marie-Roger Biloa, et qui est de formation journaliste, pas comme moi je suis un ancien pilote d'avion, j'ai des sociétés, hein, enfin bref, j'avais rien à voir dans ce créneau. Et donc Madame Biloa, en 1996, quand je la rencontre, me fait part des difficultés qu'elle rencontre au sein du magazine, et en discutant, c'est là que je m'aperçois que le magazine ne sortait plus que 4, 5, 6 fois par an, et on faisait des copies des 3 numéros en un seul, donc voilà. Donc, j'ai une société en Côte d'Ivoire qui, on a fait appel à moi, a repris le magazine, ma société en Côte d'Ivoire qui s'appelait Aubusson International Trade, nom bien français, a repris le magazine africain international qui était édité par une société qui s'appelait Akiba et dont le gérant était Monsieur Basile Etoga. Ces transferts ont été opérés auprès du tribunal de commerce de Paris dans les formes les plus légales.
Donc, oui. Pardon de vous interrompre. Il y a une chose qui quand même me paraît mériter une explication, c'est que vous nous dites le journal existe, il est utilisé par les services, ou en tout cas par la cellule de l'Élysée, par des gens qui font partie de cette France-Afrique dont parlent les auteurs du fameux bouquin. Et puis, vous nous dites, la rédactrice en chef vient vous voir, vous, pour vous dire...
On s'est rencontrés tout à fait par hasard.
Elle vous explique qu'elle a des problèmes financiers, donc vous décidez d'investir.
Voilà, parce que moi...
Pourquoi est-ce que c'est pas les services eux-mêmes qui investissent ?
J'y arrive. Les services, peut-être, avaient une politique différente à ce moment-là. Toujours est-il que moi, quand j'ai repris, il y avait j'ai repris avec le panel de journalistes qui était à l'intérieur. Et, entre autres, on m'a présenté un journaliste qui s'appelait Monsieur Paul Rivière. Et ce Paul Rivière, j'ai découvert qu'en réalité, c'était le général Joseph Canal, et qui me produisait et produit toujours aujourd'hui un article par mois sous son nom, son pseudonyme de Paul Rivière. Donc, ça vous campe déjà.
Alors, dites-nous, en deux, trois mots, qui est le général Canal ?
Général Canal a servi en partie en Afrique, et si vous voulez, il y a des liens très forts entre le général Canal, Madame Biloa, Robert Bourgi, maître Robert Bourgi qui est avocat et libanais et conseiller de Monsieur Jacques Chirac, Donc, si vous voulez, ces gens travaillaient en osmose avec Monsieur Maurice Robert, ancien ambassadeur et directeur DGSE Afrique.
Pour être clair, ce sont des gens qui, dont vous pensez qu'ils sont l'interface en quelque sorte
entre
le journal
Tout à fait. Et si vous voulez, quand j'ai pris le magazine, ces gens n'ont pas digéré que je prenne le magazine. Mais moi, peut-être c'était de la naïveté. On m'a proposé cette affaire. J'ai foncé. Ouais. On a travaillé dur. J'ai redressé le magazine.
Vous étiez un pigeon en quelque sorte. Vous êtes arrivé avec vos sous. On voulait bien vos sous, mais on voulait pas que vous mettiez votre nom, votre nez dans le.
Tout à fait.
Dans l'utilisation qui en était faite.
Tout à fait. Ça s'est fait dans mon dos, d'une façon tout à fait sournoise et qui était préméditée au regard de ce que j'ai découvert par la suite dans des courriers qui me sont qui sont arrivés sur mon bureau.
Mais en quoi le journal était-il utile, ou d'abord était-il utile aux intérêts français, aux intérêts de certains Français, aux intérêts... comment ça marchait?
Disons que
à quoi ça sert d'avoir le contrôle d'un journal comme Africa International aujourd'hui?
Bah disons que moi je l'explique de cette manière-là, c'est un outil de couverture où on peut envoyer n'importe qui en Afrique sous couvert d'être un officier de renseignement et pour pénétrer dans des présidences de la République d'une façon tout à fait anonyme, il n'y a pas mieux que la couverture de journalistes. Hein. Et la preuve en est, c'est que quand je vois le général Canal qui se fait passer pour Paul Rivière, c'est...
Enfin, le général Canal, j'imagine que s'il se présente comme le journaliste Paul Rivière au palais présidentiel du Bénin, on doit lui dire ouais, bonjour mon général, plutôt que bonjour
sûrement,
mon cher
mais sûrement, mais bon, si vous voulez... Toujours est-il que par ce biais, il y avait une manière de lancer certains messages à travers des articles qui étaient édités.
Donc c'est un outil d'influence.
D'influence aussi.
Et de renseignement.
Et de renseignement. Et à ce niveau-là, je ne suis pas, un technicien de la DGSE. Je connais bien Pierre Marion qui a été le patron de la DGSE parce que Pierre Marion a fait Polytechnique avec mon père. Mais disons qu'il n'était plus en service à ce moment-là. J'ai pu avoir que des bruits de couloir à ce niveau-là. Mais par exemple, enfin, je veux pas faire de diffamation ici, mais
il vaut mieux éviter.
Voilà. Mais par exemple,
ici comme ailleurs,
il y avait certains ambassadeurs en place qui rentraient pas du tout dans le cadre d'une politique. Je m'arrête là.
Vous voulez dire qu'ils ne représentaient pas toutes les garanties d'économie domestique qu'on pouvait espérer
Exactement.
Un diplomate bien noté, oui. C'est surprenant, mais enfin, il faut se faire à cette idée que la carrière n'est pas que peuplée d'honnêtes gens. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez, Marc, vous qui connaissez quelques diplomates?
Ça sort.
Donc, vous avez investi, vous êtes propriétaire de ce type, puis à un moment, vous vous en trouvez écarté. Alors, par quelle méthode? J'invite les auditeurs quand même à écouter, parce que vous allez voir... On a évoqué rapidement un aspect de la question qui est l'aspect manipulateur des services, mais tout ça on connaît. Mais là on va évoquer un autre aspect de la question qui est le fonctionnement de la justice en France. Vous allez voir que c'est quand même assez rigolo.
Alors, juste un aparté, j'ai découvert dans les biais de mes courriers que ma rédactrice en chef, Madame Bilois, avait été, à partir de 1990, gérante des sociétés éditrices du magazine Africa International. Et qu'à ce titre, elle était responsable de 3 faillites et qu'elle était même sous le joug d'une 3e faillite pour faillite personnelle et qu'elle était même sous tutelle du tribunal de Paris et elle est même sous tutelle jusque fin 2006. Et donc à ce titre, elle ne peut ni gérer, ni signer un chèque, ni signer un quelconque document que ce soit. Il faut prendre date de ce fait. Donc j'arrive aux tribulations qui m'ont écarté du magazine Africa International. Et il faut voir que moi j'ai racheté le magazine à une société Akiba. Et dont le gérant était Monsieur Basile Etoka, et j'ai découvert par la suite qu'il était même le frère de Madame Bilois. Donc il faut voir que ces gens-là sont des Camerounais. Un beau jour, Je découvre que, suite à toutes les péripéties que Madame Billois avait montées, qu'il y avait eu deux sociétés Akiba qui avaient été montées. Ces deux sociétés, bien sûr, étaient créées le même jour de la même année et quasiment au même siège social, et avec les membres de la famille de Madame Biloa à un prêt dans les deux sociétés.
Qui portaient le même nom.
Qui portaient le même
la
nom.
La même adresse.
Mais avec un registre du commerce différent. Et si vous voulez, il y a une chose quand même dont il faut prendre conscience, c'est que ma société était de droit ivoirien, donc ça n'a pas posé problème au départ, mais Aubusson International Trade était une société ivoirienne. J'ai eu donc tous les agréments pour reprendre ce magazine de la part du Premier ministre. Rapidement, on m'a fait comprendre que je ne pouvais pas continuer comme ça parce qu'il fallait que ce soit ma société soit de droit français. Donc, pour aller vite, je n'ai pas la fortune de Rothschild. J'ai démarré avec des fonds modestes et j'ai, pour pallier et qu'il n'y ait pas de cassure dans la parution, j'ai créé une association qui s'appelait AIT Africa International. Donc, dans cette association, il n'y avait que deux personnes, Madame Costa et moi-même. Donc, j'arrive à la, comment dirais-je, au putsch orchestré par Madame Biloa. Il se trouve que un jour, Madame Biloa, profitant d'une absence, a carrément volé l'intégralité du matériel du magazine, les stocks photos, les
déplacé,
archives.
Déplacé, dirons-nous.
Oui, oui, bien sûr.
Déplacé.
Voilà, voilà. Et si vous voulez, elle a même profité pour voler les chéquiers, fait 21 chèques avec. Enfin, allez, bref.
Excusez-moi, quand vous employez ce mot, maniez-le avec précaution, parce que dans la mesure où il n'y a pas de condamnation.
Oui, mais il y a quand même plainte avec constitution de participer.
Oui, mais une plainte, c'est une plainte. Oui, oui. Ce que je veux dire, c'est que il y a la chose qui est tout à fait extraordinaire, je trouve, c'est que c'est l'espèce de jeu du voleur chinois et non pas du voleur camerounais, qui consiste à créer une société qui porte exactement le même nom que la société légalement propriétaire, et de faire glisser les actifs de la société légalement propriétaire sur une société qui vient d'être créée, qui porte le même nom. Et ça, c'est assez renversant que ça puisse exister. Et normalement, ce qu'on imagine, c'est que quand vous voyez ça, vous allez voir n'importe quel juge d'instruction, prenez n'importe quel avocat stagiaire qui sort de l'école, et le gars, en 30 secondes, il règle le problème en disant, écoutez, on voit bien, quoi, c'est bon. Or, apparemment, c'est pas du tout ce qui se passe.
Mais c'est pas du tout ce qui s'est passé, parce que, si vous voulez, il y a eu une vigilance de la préfecture de police de Paris qui nous a écrit pour nous dire, voilà, vous êtes victime d'une demande de dissolution de votre association de la part de gens qui ne sont pas membres de votre association. Et dans les papiers qui avaient été transmis par la préfecture de police de Paris, on retrouvait Madame Biloa, qui était, avec les membres de sa famille, demandeur de la dissolution de notre association éditrice du magazine. Et ce qui est absolument incroyable, c'est que Madame Biloa est sous tutelle du tribunal de Paris, qu'elle ne peut ni signer un document, ni signer un chèque.
Ça, vous l'avez dit.
Oui, mais ça a son importance dans le...
J'entends bien, mais ce que je voudrais qu'on arrive à décortiquer dans cette histoire... C'est comment une chose pareille est-elle possible ? C'est-à-dire que...
Eh bien, je vais vous dire...
Au départ, bon, l'affaire... Je résume l'affaire, parce qu'elle paraît compliquée, mais elle est assez simple. Vous achetez un journal, vous créez une société, une association pour...
Voilà.
Gérer
pour
ce journal.
Pour l'éditer au niveau français.
Voilà. Voilà. Pour l'éditer au niveau français. Les mêmes gens créent une société qui porte le même nom que la première société propriétaire pour faire glisser les actifs, et ensuite ils demandent la dissolution de l'association.
Attends,
que vous avez créée alors qu'ils n'en sont pas membres.
J'y arrive là. C'est cette association, demande dissolution refusée par la préfecture. Qu'à cela ne tienne, Madame Biloa et sa famille demandent, suite à de fausses réunions de bureau avec de faux membres, se font élire présidente de la dite association du...
C'est quand même énorme. Il n'y a pas un magistrat pour dire, attendez,
rien,
à se jouer.
Rien. Le président du tribunal de commerce de Paris, la préfecture de police... ont agréé, là où ils l'avaient refusé au départ, ils ont agréé la nomination de Madame Biloa, présidente de l'association Africa International. Donc, à ce moment-là, Madame Biloa a joué sur du velours, parce qu'étant présidente, elle a demandé carrément la dissolution qui lui a été acceptée. Si vous voulez, c'est à ce moment-là que elle fait sortir du chapeau la deuxième société Akiba et que tous les papiers qui ont été faits à mon adresse au siège social d'Africa International en utilisant mon adresse. Donc elle fait sortir du chapeau la deuxième société Akiba.
À votre adresse toujours.
À mon adresse toujours. Et si vous
c'est
voulez.
C'est quand même énorme, non?
Et retableau, fausse réunion de bureau, etc. Madame Biloa change de dénomination la société Akiba et l'appelle AIT Africa International Times. Parce que en termes de droit, on n'est pas obligé de mettre l'intégralité du sigle. Et si vous voulez, les attributions et dont je bénéficiais pour éditer le magazine m'était accordé par le bureau du Premier ministre pour ma société Aubusson International Trade AIT. Donc Madame Biloa a bien vu le schmilblick qu'elle pouvait récupérer par ce biais-là. Et si vous voulez,
c'est dommage que perde son temps dans la presse parce qu'elle a probablement fait une politicienne de très haut niveau.
Hein. Ah tout à fait. Mais faut resituer le Cameroun dans sa dimension planétaire, à savoir qu'il est classé numéro un mondial pour les escroqueries. Ouais. Donc
Là il ne s'agit pas d'une escroquerie, là il s'agit d'un exercice astucieux. De la l'égalité.
Voilà, c'est ça.
Une conception
personnelle.
C'est Topaz de Marcel Pagnol. Hein, c'est,
oui. Non, voilà, c'est ça. Mais ce que je trouve, l'histoire en elle-même, elle est à la fois très intéressante parce qu'il s'agit d'une affaire de service, parce qu'au départ, il y a ça. Mm-hmm. Mais ce qui est très amusant, tout à fait significatif de la situation actuelle de la justice en France ou du système judiciaire en France, c'est qu'une affaire aussi évidente que celle-là. Alors là, il n'y avait pas besoin de mettre 14 personnes en prison pendant 4 ans. Hein. C'est très simple. Hein. Alors même le juge, comment il s'appelle déjà?
Le juge Loutou.
Oui, il aurait pu régler ça dans la semaine. Quoi.
Fabrice.
Donc, si vous voulez, tout cela a été
posé.
Si vous voulez, j'ai quand même mis des tampons à tout ça. J'ai porté une première plainte pour vol et escroquerie. J'ai porté une deuxième plainte avec constitution de partie civile pour vol, etc. J'ai porté une autre plainte qui est en cours à l'heure actuelle avec constitution de partie civile. Et si vous voulez, pourquoi ces affaires n'ont pas abouti? Parce que il y a une technique qui est très simple de la part de la justice et des avocats, et qui consiste à faire croire aux clients que qu'on fait nécessaire, qu'on a transmis dans les délais à la partie adverse vos conclusions, etc. Il y a l'article 15 du nouveau code de procédure qui est très typique de cela. Et si vous voulez, j'ai eu 8 avocats et dont les 7 ont tous travaillé sur des stéréotypes de copie-coller, à savoir quand il y avait des affaires, ils n'allaient pas au tribunal, ils déposaient pas de conclusion. Ou alors il demandait un renvoi le matin même de l'audience, ce qui est inconcevable. Ouais. Une demande de renvoi.
Monsieur Sébène, oui. Vous savez, il y a une difficulté quand on traite ce genre de sujet. Je vous le cache pas, c'est que vous êtes complètement dedans.
Oui, oui.
Donc quand vous parlez, ça évoque beaucoup de choses pour vous. Oui. Pour les auditeurs, c'est différent. C'est très différent parce qu'ils sont complètement en dehors. Et ils se demandent finalement de quoi on parle. Et c'est pour ça qu'il faut sans arrêt revenir en arrière pour repréciser les choses comme d'une généralité et non pas comme un cas personnel.
Oui.
Moi, je vous ai invité ce soir parce que votre histoire me paraît absolument emblématique du fonctionnement de la justice en France. Non pas de la justice, parce qu'il n'y a pas de justice, mais de la machine judiciaire, de ce qu'il faut appeler la mafia judiciaire. Vous êtes dans une situation où votre dossier est absolument, je l'ai regardé, je l'ai lu, je l'ai vu, je suis pas avocat, mais enfin, j'ai quand même 40 ans de journalisme d'investigation derrière moi.
Ça vous plaît.
Je sais reconnaître quand il y a une arnaque. En général, je me trompe pas. Et là, c'est absolument évident qu'on vous a dépouillé, mais d'une façon, en plus, ridicule. C'est un vol de poule dans un village africain, hein.
Oui.
Bon. Vous avez porté plainte, replainte. Saisi la justice, saisi la préfecture. Vous avez pris 8 avocats.
Oui.
À chaque fois,
j'ai Michel Auriac comme avocat. C'est donc.
Voilà. Et à chaque fois, ça foire, à chaque fois, ça aboutit à rien du tout, parce que c'est même pas du sabotage. C'est carrément se foutre du monde, ce qu'ils font.
C'est-à-dire oui, que... mais le but de la manœuvre, c'est justement de m'éliminer par tous les moyens et de viser la prescription et que toutes mes demandes soient caduques.
Mais moi, ce que je ne comprends pas, et je pense que vous le comprenez pas non plus, parce que autrement, vous seriez pas au stade où vous en êtes, c'est... Pourquoi ces gens-là, s'ils veulent tellement ce journal, c'était quand même assez simple de venir voir en vous disant, tenez, vous avez investi, je ne sais pas combien, X...
Bah, rien qu'en frais d'avocat, j'en suis déjà assez énorme.
Oui. Enfin, mais à l'époque, quand vous avez investi dans le journal, je ne sais pas, peu importe combien, ça ne regarde personne, mais X francs, on vous donne X plus 20%, et vous rentrez chez vous, et vous êtes content, puis vous nous foutez la paix. Au lieu de ça...
C'est ce que Pierre Marion m'avait dit, voilà. Quand on s'est rencontrés, il y avait des règles, apparemment la DGSE se comporte avec des manières de voyous, donc...
Pierre-Marion avait complètement oublié d'être sourd. On n'était pas forcément d'accord avec lui, mais il faut reconnaître que c'est parmi les patrons de la DGSE, ça a été un des plus réglo, semble-t-il.
Ben, la manière dont il a quitté la DGSE, chapeau quand même.
Ben oui, absolument. Alors, c'est tout à fait extraordinaire de penser que ce système se pratique d'une façon ouverte, très tranquillement, au vu au sud de tout le monde. Alors, on pense à la fameuse phrase « À Rome, deux augures ne peuvent pas se croiser sans éclater de rire ». Parce que là, tous ces magistrats, tous ces avocats, tous ces types qui sont dans la combine, quand ils se voient, ils doivent, quand ils font leur numéro de d'éthique professionnelle, ils doivent quand même se pisser dessus de rire. Ça me fait penser au fameux procureur qui a volé une carte bleue dans la poche d'une employée d'hôtel pour aller dans un bordel allemand et qui à l'occasion d'un voyage en Allemagne, où il prend un discours sur l'éthique de la justice. Ouais, il y a des limites quoi, à la provocation.
Mais non, il n'y a pas de limite.
Non, il n'y a pas de limite, c'est vrai.
Non, mais c'est-à-dire que, vous savez, ce livre-là, c'est Messieurs Afrique, pour moi, est une bible, en ce sens où vous avez les lignes stratégiques de toutes ces cellules mafieuses, maçonniques mafieuses, qui, comment dirais-je, peut-être je dis un mot de trop, mais...
Ah non, il fallait le dire.
Mais ça, j'assume absolument...
Je ne peux pas dire de mal de la maçonnerie ici, quand même. Je ne suis pas le genre de maison.
Donc... si je peux me permettre,
c'est pas mon vénéré frère.
Si je peux me permettre d'ajouter une autre technique pour évincer quelqu'un, c'est et j'en ai été victime. Si vous voulez, le titre Africa International était ma propriété. Je l'avais déposé à l'Institut National de la Propriété Industrielle. Eh bien, tout ce beau monde pour me voler mon titre ont rien trouvé de mieux que de m'assigner à une adresse où je n'habite pas. Donc, je n'ai pas eu connaissance de l'assignation, je n'ai pas eu connaissance de la date de plaidoirie par ce biais-là. Et en termes français, quand on ne trouve pas quelqu'un, eh bien, l'huissier remet la convocation en mairie. C'est le terme légal en France. Donc, vous êtes jugé, dépouillé à votre insu par par ces stigmates.
En tout cas, ça, c'est une des innombrables techniques qui ont été employées contre vous. Pour en terminer, je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous continuez à dire « j'ai confiance dans la justice de mon pays »
Ben, c'est-à-dire que je regrette une chose, c'est que le colonel Bastien Thierry n'ait pas été...
Mieux écouté.
J'assume entièrement. Quand on voit l'état de déliquescence et de pourriture du pays, moi je suis d'une famille où on a servi, on sait ce que ça veut dire, et j'ai le plus grand respect pour des gens qui ont voulu maintenir des valeurs et qui aujourd'hui sont toutes bradées pour des profits mercantiles.
Mais je vous remercie. Alors, j'espère que vous allez récupérer votre revue.
Disons qu'il y a une plainte. Il y a une plainte avec constitution de partie civile qui est déposée depuis bientôt un an. Le juge, Madame Josier, a lancé des commissions rogatoires depuis 11 mois, et c'est la chape de plomb en ce sens que on n'arrive pas à comprendre que bien des preuves sont en face du bureau du juge Josier, à savoir. À la préfecture de police, elle a juste à traverser la rue, et elle traverse l'autre rue, vous avez le tribunal de commerce de Paris, il suffit de faire monter les archives pour cela. Donc je n'arrive pas à comprendre que dans ces conditions-là, on nous dise non, il n'y a pas de réponse, etc. Donc moi je me suis déplacé, je suis allé au bureau des juges d'instruction, on me dit non, il n'y a pas de réponse, donc à mon avis... Il y a une chape de plomb qui est voulue pour m'étouffer, partant du principe que Madame Biloin sera levée de ses sanctions de tutelle dans quelques mois. Donc,
voilà, la course contre la montre et contre Madame Bidouya et
mais je suis déterminé à aller jusqu'au bout et je suis pas d'une espèce à me laisser marcher sur les doigts de pied.
Il vous faut du courage. Merci beaucoup. Merci d'être venu nous exposer ce magnifique exemple du fonctionnement de la machine judiciaire en France et de la machine étrangère aussi, parce que il y a les services, il y a la politique étrangère, il y a la politique africaine, le cabinet de l'Élysée.
Que du beau monde.
Et que du beau linge, et quelques magistrats et avocats. On voit tout ça se tient par la barbichette et ça marche très très bien.
Monsieur de Bekech, c'est moi qui vous remercie.
Vous voyez, vous auriez fait d'investir dans le Libre Journal.
Au moins, vous n'auriez pas été de la revue.
Mais nous ne prenons pas les investisseurs privés, je suis désolé, c'est une affaire strictement familiale. Donc je ne peux pas vous proposer de gagner le gros lot, tant pis. Merci beaucoup, merci Madame
Picard,
Monsieur Seben est venu accompagné de sa ravissante épouse que nous saluons, qui est une
malgache.
Et quand je lui ai demandé si elle était africaine, elle m'a répondu, non, je suis malgache. C'est pas tout à fait la même chose. Merci, à bientôt.
Merci beaucoup.
Nous saluons l'entrée de notre bien-aimé Patrick Goffman, qui nous manquait déjà.
Chers amis, bonsoir.
Et ceux de au-delà, non ? Vous êtes un peu fatigué, peut-être.
À nos auditeurs dans le monde entier, voilà. Et au-delà.
Et au-delà.
Tu es fatigué, aurais-tu travaillé ?
Eh oui.
Ah bon ?
Ça me tue.
Alors, oui, ça, vous n'êtes pas le seul, cher ami. Nous recevons, il y a quelqu'un d'autre qui vient de faire son entrée dans le studio, c'est le monsieur Georges Alexandre Humbert. Est-ce qu'on dit le docteur Georges Alexandre Humbert ?
Non, président de l'association. Je viens au titre de président de l'association.
Alors,
pardon. Alors, appelez-moi tout simplement Monsieur le Président.
Un Français sur trois est président de quelque chose. Donc,
ben voilà.
Vous connaissez la fameuse histoire de Madame de Gaulle entrant dans la salle de bain de l'Élysée et tombant sur le général dans son état de nature. Et elle dit, oh mon Dieu, et lui dit, Yvonne, dans l'intimité, vous pouvez m'appeler Charles. Donc je vous appelle pas. Je ne vais pas vous appeler Charles, mais je vais vous appeler
Georges Alexandre.
Monsieur Humbert ou Monsieur le Président. Alors vous avez publié un livre intitulé Tranquillisant somnifère neuroleptique, antidouleur, l'affaire du Vioxx. Ses faux amis, ça s'appelle. Et il s'agit d'un cri d'alarme contre l'abus, le mésusage des tranquillisants. Et nous allons en parler en deuxième partie d'émission, si vous voulez. Mais d'abord, je vais me tourner vers Franck en lui demandant, dès que j'aurai son audition, mais pour l'instant, il est occupé à autre chose. Et donc, je suis en train d'essayer d'entendre. Non, il est d'ailleurs très occupé.
Il a fait salon avec sa ravissante dame. Donc...
Mais je le comprends, d'ailleurs.
Écoutez, oui.
Avec quel art ne meublez-vous pas, mon cher Serge?
N'est-ce pas?
C'est un vrai professionnel.
Henri Roche et Beaubois.
Beaubois.
Il n'y a pas de questions, au fait?
Non.
Bibi.
Ah ben alors.
Oui, il y a eu pas mal de mots pour dire que l'Afrique, on s'en fiche, mais... Parlez-nous de la France, mais je crois qu'on s'est pas très très bien compris, chers amis auditeurs. Je crois que c'est bien de la France que nous avons parlé.
Son système judiciaire.
Voilà. Il se trouve que ça concerne une revue africaine, mais c'est quand même la question, c'est quand même... Moi, je suis abasourdi par cette histoire, vous trouvez pas?
C'est incroyable, c'est du vaudeville, presque.
Ah ben oui, mais c'est... Ça dépasse tout ce qu'on peut imaginer dans le culot.
C'est inquiétant.
Et je dois dire que l'idée de fonder une société qui porte exactement le même nom qu'une autre pour piquer les actifs, celle-là, je vais essayer de l'utiliser. Oui. Demain, on va aller déposer les statuts de la Société Générale, Patrick Descartes.
Et c'est pas nouveau, hein.
Je peux en mettre une couche vite fait, le temps que vous captiez l'attention de Franck. Je sors de corriger, je travaille, comme a deviné le marquis à mon air épuisé, je corrige une revue, disons, juridique. J'y connais
ça
rien.
Ça change des femmes.
Et qu'est-ce que je découvre? Que selon le greffe de tribunal auquel vous vous adressez, supposons que vous louiez un appartement meublé, On vous considérera comme loueur de meublés professionnels avec tous les droits afférents ou non, selon le greffe de tribunal français auquel vous vous adressez. La loi Variard, je m'adresse au rédacteur en chef qui me dit « Ah oui, c'est pittoresque, c'est bizarre, mais au fond, ça finit par bien marcher, par s'équilibrer. »
Ben oui, c'est ça. Ouais,
la
c'est
greffe
ça.
Prend.
Moi, je suis tout à fait partisan de la loi du bordel maximum.
Ben oui, ben ça, alors là, on hein? est bien parti.
Non, non, mais ben, c'est vrai, mais ou pas. Le secret du bonheur, c'est ou pas. J'ai raconté comment on avait fondé avec Pierre Monnier une association très privée, qui était une association Guillaume Apollinaire, et dont le principe était pour être membre de l'association Guillaume Apollinaire, il fallait être français d'origine étrangère ou pas.
Ben voilà,
alors... ah, ben ça me paraît une très très bonne idée, ça. Alors, on a un problème avec le numéro de téléphone qui est faux, semble-t-il. J'ai bien compris que mon ami Lebec, que nous allons appeler, était en état d'ivresse lorsqu'il m'a donné son numéro de téléphone. Donc, je vais...
Quel restaurant l'avait invité ?
Pardon ?
Quel restaurant l'avait invité ?
Bon, ça, c'est gentil, oui. Ça, c'est... Alors, je cherche le numéro de téléphone.
Il n'est bon, Lebec.
Je suis désolé de rendre nos auditeurs... témoin de ces manœuvres très maladroites, mais je ne peux pas faire autrement. Voilà, si...
C'est du direct, si, qu'on dit dans
oui,
ces
oui,
cas-là.
Oui,
quand
c'est...
les professionnels cafouillent, ils disent c'est du direct, c'est du
direct. Ah là, c'est carrément du direct, oui.
Ça, c'est carrément professionnel.
Ouais, c'est carrément du direct. Et ça commence à devenir l'angoisse parce que c'est long. Et comme j'ai remarqué en lisant les messages aujourd'hui que nos éditeurs ont la tête près du bonnet ce soir, est-ce qu'il y a une lune ? Bon, et ben alors, je sais pas pourquoi. Vous appuyez sur le bouton vert, Franck, s'il vous plaît, vous aurez l'intéressé qui vous donnera le numéro sur lequel vous pouvez le rappeler. Voilà, donc on va avoir Éric Lebec parce que aujourd'hui, c'est le premier anniversaire de l'avènement de Benoît XVI au trône de Saint-Pierre. Et nous allons faire en quelques minutes, nous ne reculons devant rien, nous allons dresser le bilan d'un an de pontificat de Benoît XVI. Étant entendu que Éric Lebec est particulièrement bien placé pour en parler, puisqu'il est l'auteur du premier livre qui est paru...
Sur Benoît XVI,
après son élection au pontificat, tout ça grâce à une acrobatie éditoriale dont il faut saluer la virtuosité, et qui s'appelait comment ce livre ? Patrick, vous l'avez lu 16 fois. Voilà, alors nous allons avoir Éric Lebec dans quelques instants. D'ici là, est-ce que vous voulez nous dire du bien du numéro du Libre Journal que vous
J'ai
avez sous les yeux ?
J'ai bien en peine de vous en dire du mal, mon cher Serge, puisque...
C'est pour une fois que le chef demande qu'on parle de son journal.
Oui, je suis surpris, mais prêt. Je peux d'autant moins en dire du mal que nous avons pris un otage et que la police est totalement impuissante. Donc, le pauvre otage sera abattu si l'auditeur et l'auditrice ne s'abonnent pas séance tenante. On a d'autres arguments, en particulier...
Faut peut-être être plus explicite, quoi.
Ah non, surtout pas. Non. Il y a un otage...
Il y a la photo de l'otage.
Voilà, de l'arme braquée sur lui, et il reste quelques jours pour sauver cet otage. On reçoit sa photo,
évidemment. Il faut quand même montrer au docteur Humbert... Monsieur Humbert, là.
Qui l'air effrayé.
Qui commence à s'angoisser. Tenez, regardez.
Président Humbert, non, je m'angoisse.
Voilà. Monsieur le Président Humbert, si vous voulez vous donner la peine de... regarder.
Alors, on a d'autres arguments, Dieu merci. Et moi, j'ai un autre journal, heureusement aussi. C'est le numéro 376 du Libre Journal imprimé. Et on a bien sûr l'entrevue, disons, de notre divin marquis avec Juan Carlos d'Espagne il y a quelques jours. Naturellement, je n'en dis rien de cette entrevue. Exclusivité.
Franchement, vous pouvez pas en dire beaucoup parce qu'on peut pas dire que c'était un entretien très prolongé. Quoi.
Une embrasure de fenêtre. Mais c'est... Vous venez en vacances.
Ouais, c'était quand même intéressant et sympathique, oui. Surtout les circonstances. Alors, on analyse dans ce que nous appelons notre marigot, le comportement du ministre de l'Intérieur, et ça fait écho à la discussion qu'on avait avec des syndicalistes policiers la dernière dernière fois, on essaye d'expliquer pourquoi d'un côté on annonce maintenant ces 4000 interpellations pour une poignée d'ailleurs de condamnations de la prison avec sursis, et pourquoi des passantes, des photographes ont pu être littéralement massacrés par des bandes de jeunes entre guillemets venus de banlieue sans que la police ne lève un doigt. On essaye de distinguer une tactique électorale politicienne de Sarkozy derrière tout ça. La révolution bleue, un remède pire que le mal, là encore je laisse la surprise au lecteur. On a un reportage à Bali, on a toujours des reportages très lointains, très exotiques. On analyse le livre à succès d'Éric Zemmour, qui est venu d'ailleurs le lancer dans ce même studio, bien avant d'aller se rendre, de continuer le lancement sur les antennes de
France Inter. D'aller se faire engueuler sur les autres antennes.
Oui, c'est vrai. On a naturellement toujours nos mots croisés de première qualité, chronique cinéma, opéra, chronique religieuse, revue de presse extrêmement soignée, il faut que je lui tienne un coup de chapeau de temps en temps, sans parler de l'éditorial qui n'est pas de Serge de Bekesh, mais de Jean-Gilles Maliarakis, dont quelques auditeurs ont peut-être entendu parler. Voilà, peut-être que j'ai suffisamment meublé, c'est alors je n'ai plus qu'à ajouter qu'on se procure ce numéro 376 et qu'on sauve l'otage en envoyant un carnet de timbres ou 5 €, qu'on s'abonne si on est enfin décidé pour un an pour la somme de 110 €, chèque à l'ordre de SDB, 4 places France List, 75 010, Paris. J'en ai fini, mon cher Serge.
Merci, mon cher jeune camarade. Donc, je voulais encore donner une information. Dans Le Monde, on nous explique qu'il y a eu une agression raciste à Potsdam.
Ah oui.
Il y a eu ça, violemment frappé à la tête par deux agresseurs dimanche 16 avril à un arrêt de tramway à Potsdam. Un Allemand d'origine éthiopienne a été transporté dans une unité de soins intensifs où il lutte depuis en état de coma, etc. La victime, un ingénieur, c'est un Allemand d'origine éthiopienne, ingénieur, voilà, a tenté pendant l'attaque d'appeler son épouse sur son portable.
Bonne idée. Hein? Si elle était arrivée à temps, elle aurait tout arrangé.
Le répondeur a enregistré, en plus il était sur le répondeur, a enregistré les insultes proférées par ses agresseurs. Ça, c'est dans Le Monde. Mais il y a deux autres informations qui ne sont pas dans Le Monde. C'est que le même jour, une Chinoise de 58 ans a été agressée dans le 13e arrondissement par un groupe de mineurs. Je ne savais pas qu'il y avait des mines dans le 13e arrondissement, qui voulait lui voler son sac. Elle est décédée samedi des suites de ses blessures. Trois des jeunes ont été interpellés et mis en examen. Alors quand des jeunes attaquent une Chinoise et la tuent, c'est pas raciste, hein, c'est une violence. Et puis un adolescent de 15 ans a été blessé samedi soir, coup de couteau à la cuisse lors d'un arrêt du RERD en gare de Vigneux-sur-Seine, Essonne. Une jeune fille qui s'interposait a été frappée à la tête.
Courageuse jeune fille.
Par un groupe de jeunes qui a pris la fuite. Ça, c'est pas non plus dans Le Monde. Le Monde, il s'intéresse aux racistes de Potsdam. Il s'intéresse pas aux racistes du 13e arrondissement et de Vigneux-sur-Seine.
Je croyais que Le Monde avait pris un tournant réaliste pour essayer de sauver, de redresser ses ventes.
Apparemment, ils sont calmés de ce côté-là. Voilà. Est-ce que nous avons au téléphone le. Allô? Oui, allô, je coiffe le casque. Monsieur Lebec, bonsoir.
Bonsoir, monsieur Lebec. Comment allez-vous?
Je vais fort bien, je vous remercie. J'appelle ici au secours l'auteur du premier livre paru sur Benoît XVI.
Oui, à deux jours près.
Oui, mais enfin, c'est le premier quand même.
Je crois que celui de Constance Colonna, Césari, était en librairie deux jours avant le mien. Ah. Je crois que c'est un assez bon livre, bien que je ne l'ai pas lu.
Ah bon? C'est le meilleur moyen de le trouver bon, alors.
Oui, c'est une fort jolie personne que j'ai entendu dire des choses très sensibles dans les médias. Par conséquent, bien que je ne la connaisse pas, je la salue.
Bien, alors moi je ne connais pas non plus Constance Colonna, c'est la raison pour laquelle je vous appelle vous, pour vous demander de nous faire comme ça un tunnel, comme on dit à la radio, oui. Quand on donne la parole à quelqu'un sans l'interrompre, ce qui pour moi est vraiment insupportable.
Mais ça m'étonne avec
sur le bilan de la première année de pontificat de Benoît XVI. En gros, vous êtes plutôt content ou plutôt pas content?
Je suis extraordinairement surpris. D'abord, j'ai pleuré de joie lorsque j'ai entendu le prénom annoncé par le cardinal diacre qui a annoncé l'élection, parce que quand j'ai entendu le prénom Joseph, j'ai tout de suite compris que c'était Ratzinger qui était élu, et c'est un véritable miracle. Bossuet disait que l'Église, c'est Jésus-Christ répandu et communiqué, et bien c'est aussi Jésus-Christ ressuscité. Et pendant cette octave de Pâques, où, eh bien, je crois qu'on peut parler d'une résurrection de l'Église avec l'élection de Benoît XVI, parce que c'est extraordinaire. Voilà un homme qui ne fait pas de bruit, voilà un homme qui travaille. Il ne fait pas de bruit, bien qu'il joue au piano pratiquement une heure par jour, du Mozart, paraît-il, mais aussi d'autres choses.
J'espère qu'il ne va pas voir, au fait, la couverture du Libre Journal, parce qu'il paraît qu'il aime beaucoup les chats.
Alors, c'est plutôt les chats qu'il aime. Mais les chats qui vivaient avec lui dans l'appartement qu'il habitait en dehors de la cité vaticane l'ont un petit peu rejoint dans les appartements pontificaux, puis sont repartis dans la ville. C'est des chats de gouttière. Mais il est, paraît-il, très aimable avec le chat du cardinal Ray, et on m'a même dit qu'il était plus aimable avec le chat qu'avec le cardinal. Je ne sais pas si cette information...
Ben oui, c'est tout à fait intéressant.
Alors,
c'est tout à fait intéressant. Le marquis a l'air ému d'apprendre ça, non ?
Il a ému d'apprendre ça. Oui. C'est parce qu'il ne connaît pas le cardinal Ray, peut-être. C'est très difficile d'être aimable avec le cardinal Ray.
Et
c'est beaucoup plus facile avec un chat. Et je suis généralement peu aimable avec les chats, je dois reconnaître. Et alors,
oui, j'ai entendu dire ça dans la région du Finistère. On en parle pas mal.
On en parle, hein, on en parle. Et ben, j'aime bien les maisons, j'ai les hirondelles et j'aime pas ceux qui les mangent. Et donc, le pape a fait un travail absolument énorme. Il a publié un compendium, c'est-à-dire un catéchisme qui a été ignoré avec une superbe incroyable par l'épiscopat français. Le cardinal Barbarin a déploré que lors de la réunion de l'épiscopat à Lourdes, eh bien, pour préparer le catéchisme, on n'ait pas utilisé le compendium publié par Benoît XVI. Ouais, il a trouvé ça déplorable, mais il l'a déploré après. Bon, voilà. Bon, ben écoutez, que ses larmes de crocodile sèchent le plus vite possible, et puis qu'il se mette au travail, quoi. Parce qu'il y a quand même une opposition larvée qui est extraordinaire, et qui consiste à dire Benoît XVI est un penseur. Alors il vit dans sa tour d'ivoire, il reçoit des gens, on ne sait pas ce qu'il pense, il répond pas, voilà, bon. Donc, voilà, c'est un professeur, bon, on essaye de l'enfermer dans un rôle qui, bien heureusement, n'est pas le sien. Et j'ai eu l'occasion, sur d'autres antennes que la vôtre, de rappeler un certain nombre de décisions énormes, importantes. D'abord le choix de son successeur, à la doctrine de la foi, où il a pris l'ancien archevêque de Portland et de San Francisco. Or, Portland est un diocèse américain sur la côte ouest qui a été ruiné par les scandales moraux du clergé. Donc, c'est un homme parfaitement lucide, parce que on peut pas dire que le cardinal Levada s'était distingué par des travaux intellectuels d'une immense portée. Hein. Bon, c'est comme ça. Il y a des intellectuels aux États-Unis, c'était pas le cas du cardinal Levada. Donc, c'est une décision lourde de sens. C'est la première fois qu'un Américain des États-Unis a un poste aussi considérable à la Curie romaine. Et bon, j'avais annoncé dans mon livre, aidé en cela par quelqu'un d'aussi bon observateur que Daniel Amiche, que votre invité bien souvent, la priorité américaine, si vous voulez, une priorité vers les États-Unis, parce qu'il y a là une population... bon. D'autre part, Benoît XVI a reçu Monseigneur Felet, et il l'a reçu comme un évêque. Comme on reçoit un évêque, avec les honneurs, les égards, les politesses, le protocole. Bon, or, Monseigneur Felet a été ordonné, a été sacré évêque sans mandat pontifical. Donc, Benoît XVI n'était pas obligé d'avoir ce genre de courtoisie, de politesse, de délicatesse à son endroit, pour pouvoir faciliter une réconciliation que tout le monde appelle. Benoît XVI a aussi publié une encyclique qui est extraordinaire, et qui est éclairée par la nomination du cardinal Ghanéen. Alors, évidemment, nous autres Français, bon, l'archevêque de Tamale au Ghana, ça nous paraît quand même terriblement
excessif. Ça nous parle peu, comme on dit maintenant.
Ça nous parle peu, oui, ça nous interpelle pas au niveau du vécu. Hein.
D'autant que c'est l'Afrique anglophone, si je ne m'abuse.
Vous avez parfaitement raison, c'est l'Afrique anglophone. Je me permets de compléter en disant que c'est l'Afrique de l'ethnie Kwa. Alors, l'ethnie Kwa, K-W-A, c'est l'ethnie la plus intellectuelle d'Afrique. C'est l'ethnie qui a donné le cardinal Gantin et beaucoup d'autres personnes, comme Monseigneur Dossé, l'archevêque de Lomé et d'autres, des grands intellectuels. Chaque fois qu'on rencontre un professeur de médecine, eh bien, il est généralement de l'ethnie Kwa, parce qu'il y a des professeurs de médecine qui réussissent les concours, etc., et qui les passent au la main, enfin bon. Ce cardinal, qui a plus de 80 ans, va pouvoir jouer un rôle dans la solution du problème ivoirien, dans un certain nombre de dans la confrontation que nous vivons aujourd'hui à travers tout le Sahel entre musulmans et chrétiens. On le voit par les événements du Tchad, n'est-ce pas, où le président Idriss Déby a finalement refusé de partir en exil, s'est maintenu, a été sauvé par des tirs de semonce, n'est-ce pas. Ce sont des tirs de semonce qu'ont été tirés par les... Ils ont peut-être tiré à blanc.
C'est du racisme, là, ce moment-là.
Donc, si vous voulez, cette nomination du cardinal Derry, cette encyclique, c'est véritablement, vis-à-vis de l'islam, une position de lucidité. De même que d'envoyer Mgr Fitzgerald comme nonce auprès de la Ligue arabe, ça veut dire, eh bien, avec l'islam, nous pouvons trouver des intérêts communs, par exemple pour la défense de la vie, puisque l'islam est très profondément opposé à l'avortement, et ne veut pas que l'avortement soit une méthode de régulation des naissances. Conférence du Caire, conférence de Mexico, enfin il y a eu des points d'accord diplomatiques entre le Saint-Siège et les pays musulmans qu'il ne faut pas perdre. Mais en même temps, voilà, il n'y a pas de clergé musulman, il n'y a pas... Et surtout, ce qu'a très bien souligné Benoît XVI, c'est que le Coran, il est révélé tel quel à Mahomet. Donc il n'a pas à être interprété, c'est pas l'évangile selon saint Marc, selon saint Luc, selon saint Matthieu, c'est pas le Pentateuque écrit par Moïse, c'est et que par conséquent il y a une part d'interprétation, il y a une place pour une autorité vivante qui porte la parole de Dieu et qui la fait connaître. Non, et le Coran il est comme ça tel quel pour toujours. Bon, donc évidemment le dialogue s'arrête assez rapidement, quoi. Ouais. Donc Benoît XVI, c'est extraordinaire. Alors, il y a une petite sottise aussi. Je réussis quand même à vous empêcher de parler, ça.
Non, non, pas du tout. Je vous écoute avec beaucoup d'intérêt.
Vous êtes bien aimable.
Mais oui, je trouve aussi. Oui.
Il y a une petite bêtise qui est dite par la grosse presse, c'est qu'on oppose Jean-Paul II, le comédien, n'est-ce pas, l'homme de théâtre, à Benoît XVI, le réservé, glacé,
théologien,
qui en fait ignore les foules, etc. Alors, d'abord, il faudrait quand même mettre un peu les choses au point, n'est-ce pas. Ma femme est cracovienne, je connais bien le passé cracovien de Jean-Paul II, puisque j'ai rencontré plusieurs de ses amis d'enfance et de ses amis proches. Jean-Paul II, il a joué deux fois au théâtre, et c'était un théâtre muet. Donc, il faut quand même arrêter de ne nous faire le coup du pape comédien, quoi. Non, Jean-Paul II ne jouait pas au pape, il était pape. C'est même un peu déplaisant à la fin. Je m'anime, excusez-moi, mais bon. D'autre part, on voit que Benoît XVI a un sens aigu du monde moderne, je dirais même de la société du spectacle, pour prendre, n'est-ce pas, une référence qui n'est pas tout à fait dans notre famille intellectuelle. Il a rétabli la mitre fermée, qui est l'ancêtre de la tiare qui n'existait plus que sur le papier. Il a rétabli le grand pallium magnifique d'1m80 qui le distingue et qui fait que le pontife romain, c'est son titre exact, le ministère pétrinien, le ministère de Pierre, se distingue.
Eric, je vais être obligé de vous couper la parole pour deux raisons. La première, c'est que nous arrivons à la moitié de l'émission. La deuxième, c'est qu'on ne vous entend pratiquement plus. Je ne sais pas ce qui se passe avec le téléphone, mais il y a des grésillements épouvantables.
Allons peu.
En tout cas, nous, si vous voulez, nous reprendrons cet entretien, vous présent dans le studio, dans une prochaine émission.
Vous êtes très aimable de m'avoir appelé.
Merci, merci beaucoup, Eric. Voilà. Alors, je rappelle qu'Eric Lebec a écrit, je crois, aux éditions du Rocher, me semble-t-il.
Oui, c'est ça.
Aux éditions du Rocher. Un excellent livre consacré à Benoît XVI.
Eh bien, nous revoilà pour la deuxième partie de cette émission, et je vais commencer par un aveu. Vous savez que les journalistes parlent parfois de livres qu'ils n'ont pas lus. Si vous ne savez pas, je vous le dis. Bon. Alors, le truc, c'est que on a ou des collaborateurs qui lisent le bouquin ou qui vous font des fiches, ça c'est quand vous avez les moyens, et quand vous n'avez pas les moyens, vous sélectionnez une, deux, trois, généralement une d'ailleurs, attachée de presse, donc vous êtes sûr qu'elle est de bon conseil, et puis vous attendez qu'elle vous appelle en disant « là j'ai quelque chose pour vous ». Alors il y a une attachée de presse qui s'appelle Jeanne-Marie Marchand, qui régulièrement me téléphone en me disant « j'ai quelque chose pour vous », parce qu'elle connaît mes petites manies, et elle m'envoie le bouquin, je le lis, et en général elle se trompe pas, et je reçois les auteurs, parce que c'est toujours une façon originale de regarder le monde médical, le monde du médicament, etc. Et puis donc là elle m'a appelé, elle m'a dit j'ai quelque chose pour vous, et pour des raisons pratiques je n'ai pas pu lire le bouquin avant ce soir. Or là, pendant que nous devisions et pendant que je faisais semblant d'écouter Eric, j'ai parcouru assez rapidement, mais en profondeur quand même, parce que c'est le livre de Georges-Alexandre Imbert qui s'intitule « Tranquillisant somnifère neuroleptique, ce faux ami, antidouleur, l'affaire du Vioxx ». Témoignage, question, réponse. Et je continue ma confession, le titre n'est quand même pas la chose la plus excitante du monde. Hein. C'est aux éditions du Dauphin, ils nous ont habitués à des titres un peu plus rockés. Là, c'est un peu, il faut vraiment avoir envie de le lire. Or, j'ai ouvert ce bouquin, j'ai commencé à lire, et alors c'est un bouquin que vous ne pouvez pas manquer. Vous allez voir pourquoi. Ça fait partie de ces secrets qui sont absolument des secrets médicaux qui sont mis sous le boisseau, dont personne n'ose jamais parler ou à mot couvert. Et quand on entre dans ce bouquin, on découvre qu'on est en face d'un véritable cataclysme. C'est pas simplement, attendez, si vous prenez trop de tranquillisants, vous allez vous retrouver un petit peu neuneux ou un petit peu fatigué. Non, pas du tout. C'est une bombe atomique, monsieur Imbert.
Oui, c'est une bombe atomique. C'est 14 ans de témoignages reçus par l'association, et il fallait bien le concrétiser par un ouvrage.
Cette association, c'est... L'aide aux victimes des accidents
des médicaments. Oui, l'association a été créée en 1992.
Par vous-même, alors.
Par moi-même, oui, à la suite d'un problème familial.
Et la suite d'un drame familial que vous racontez.
Que je raconte.
Ce qui met tout de suite dans l'ambiance du bouquin.
Oui. Avant, il y a même une préface qui explique aussi du docteur Véronique Vasseur qui a été médecin-chef de la prison de la Santé, qui explique toutes les...
Alors, si vous permettez, je vais lire.
De ces produits.
En général, on aime bien dire à un auteur, comment avez-vous eu l'idée d'écrire ce bouquin ? La première question, ça permet de rentrer dans le vif du sujet. Et là, M. Imbert a intitulé son premier chapitre, comment l'idée de ce livre m'est venue, ce qui m'évite de lui poser la question. Et il écrit, en juin 92, vers 8h du matin, le téléphone sonna à mon domicile de l'avenue Clébert à Paris, c'était le commissariat de police du quartier des Halles, qui demandait ma présence de toute urgence pour une affaire concernant mon fils, Laurent, domicilié à côté de la place du théâtre du Châtelet. Et voilà, ça commence. Et alors là, on bascule dans le cauchemar, le pire cauchemar qui puisse arriver à un père, je pense.
Oui, le pire cauchemar qui puisse arriver à de nombreuses familles. Parce
oui,
que
bien sûr.
Là, il s'agit d'un suicide. Il y a à peu près, avec la dissimulation qui est reconnue officiellement, 14 000 suicides par an en France, qui est le pays où l'on consomme... énormément. C'est pas le pays qui en consomme le plus. La Suisse en consomme un petit peu plus que nous. Donc,
ça se sent parfois,
et la Belgique aussi. Donc, on retrouve à peu près les mêmes problèmes qu'en France, c'est-à-dire un nombre de suicides par.
Et alors, vous avez une rédaction qui est je sais pas si elle est rare, mais enfin, elle est pas courante, faut bien dire. Au lieu de vous effondrer et de culpabiliser, enfin tout ce qu'on imagine que peut faire un père dont l'enfant se suicide, vous décidez d'en savoir plus.
Mais écoutez, je suis arrivé, j'ai écouté un peu l'intervenant précédent, et c'est un petit peu la même chose. La justice ne m'a vraiment pas aidé. J'ai compris au bout de quelques années que c'était un secret d'État. C'était un secret d'État, et d'ailleurs...
il n'y a pas eu moyen de faire d'obtenir des autre chose que des expertises qui étaient orientées et même grossièrement falsifiées, on peut le dire sans.
Alors, vous, votre thèse, la thèse que vous exposez avec une quantité énorme de témoignages à l'appui, oui, et d'exemples qui sont tous plus terrifiants les uns que les autres, c'est quand vous dites ces faux amis, c'est vraiment l'euphémisme le plus violent qu'on puisse imaginer. Ce sont de terribles ennemis, ces tranquillisants somnifères et neuroleptiques,
oui,
qui ont entraîné des drames absolument effroyables.
Ça entraîne des drames absolument effroyables, notamment par la mauvaise prescription de ces produits.
Ou l'auto-prescription.
Auto-prescription, non, parce qu'il faut quand même une prescription, la prescription d'un médecin.
Oui, mais
il faut une
ordonnance. Vous savez bien que les gens vont voir plusieurs médecins et qu'ils arrivent à se fabriquer des cocktails neuroleptiques qui sont...
Tout à fait, mais la loi oblige le médecin à ne délivrer que pour 2 fois 7 jours, 14 jours, par exemple, des médicaments comme le Valium ou le je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut du Lexomil ou tous, oui, ces produits ou des somnifères comme le Stilnox, oui, ou le Rohypnol ne peuvent être prescrits que pour 2 fois 7 jours, c'est-à-dire pour des insomnies très rebelles. Et en réalité, vous avez la 25% de la population qui, oui, prennent ces pilules tous les matins pour se doper. Donc il y a un détournement d'usage et l'État laisse faire.
Alors, d'une part, les médecins sont pris dans une espèce de pince. C'est-à-dire que d'une part, les laboratoires leur disent plus vous en vendez, mieux ça vaut. Ça, c'est bien clair.
Oui.
D'autre part, en tout cas, l'État ne fait rien pour que la vente baisse. Et d'autre part, les consommateurs, eux, demandent.
Bien sûr. Bien sûr, lorsque l'on est sous addiction, lorsque l'on ne peut plus se passer de ce produit, il est évident que c'est un problème énorme, énorme. Ce sont de faux amis.
Oui, oui, moi je vous dis, je trouve que c'est un très très beau, c'est un très bel euphémisme, faux amis, parce que des faux amis qui provoquent des affaires comme l'affaire Riviego, je crois.
Raviriego,
oui, qui est une femme visiblement adorable, qui s'occupe de gens âgés, qui est une femme parfaitement équilibrée, semble-t-il, qui est très gentille et tout. Un bon matin, elle se lève, elle tue son amie, elle la découpe en morceaux, oui, dans la baignoire, et elle va disposer les morceaux dans diverses, oui, poubelles de son environnement. Et puis, elle est condamnée à la prison à perpétuité, et du coup, elle est sevrée. Et à ce moment-là, elle se dit, mais écoutez, il faut que vous compreniez une chose, c'est que je ne suis pas quelqu'un de méchant. Je suis une victime des médicaments, et elle démontre ça. C'est terrifiant, elle est en prison maintenant depuis 20 ans.
C'est un cas extrême, ça va faire 17 ans qu'elle est en prison. Des expertises psychiatriques ont reconnu que c'était à cause des médicaments qu'elle était passée à l'acte. Ouais. Et elle reste enfermée, donc c'est une prisonnière politique.
Qu'est-ce qu'elle prenait, elle, par exemple?
C'est le Lixantia. Le Lixantia est
à trop forte dose? Est-ce qu'il y a une question de dosage? Est-ce qu'il y a une question de résistance?
Non, je pense que en matière de médicaments psychotropes, la dose ne fait pas le poison. Donc, un simple petit quart de Lexomil peut très bien déclencher un passage à l'acte violent, alors que vous allez avaler le tube, finalement, ça sera moins dangereux, puisque vous allez tomber dans un espèce de coma dont vous, en principe, vous en sortirez. Donc, mais par contre, le petit quart, c'est un produit psychostimulant.
C'est affolant, parce que c'est vraiment affolant, la lecture de votre livre. On se dit qu'on est à la merci d'un coup de nerf. On dit, oh, tiens, je prends un Lixomil, on coupe un tout petit, oui, bout de ce minuscule cachet pré découpé, on avale ça avec un verre d'eau, puis on dit, oh, ça va me reposer, vais pouvoir m'endormir. On se réveille avec sa femme découpée en morceaux à côté de soi dans le lit. C'est...
Beaucoup d'accidents, oui, de ce type, parce qu'on ne se rend plus compte de ce que l'on fait. Les troubles du comportement interviennent et on ne sait pas ce que l'on fait.
Et ça, les laboratoires savent ce qu'ils font quand même quand ils vendent ces produits. Ils savent bien qu'il y a un risque gigantesque.
Les laboratoires fabriquent et ils vendent.
Alors l'État, ils profitent du...
profitent du
système. Ils rebat les oreilles pour ne pas dire autre chose.
Oui, on en parle beaucoup. Il y a souvent des réunions avec des juges d'instruction, des présidents de cours d'assises, des présidents beaucoup de présidents, mais...
Qui eux-mêmes doivent prendre ces produits, parfois, d'ailleurs, quand on voit leur comportement.
Moi, je vous feuilleté le bouquin pendant 10 minutes. Vous ne me ferez plus prendre rien du tout. C'est fini, jamais.
Et moi, je suis très inquiet.
Il m'est arrivé de prendre de l'Exomil, des petits... C'est minuscule, c'est gros comme...
Ça paraît anodin.
Ça paraît totalement anodin.
Dans le livre, j'explique un peu la différence entre tous ces produits, parce qu'on fait un peu... On fait l'amalgame entre les tranquillisants, les somnifères, les neuroleptiques, les antidépresseurs, et tous ces médicaments n'agissent pas de la même manière. Donc, dans le livre, je donne quand même quelques explications.
Vous parlez de la Ritaline, par exemple. La Ritaline, c'est ce qu'on donne aux enfants hyperactifs, non?
Voilà, Ritaline, oui. En France, on donnait des benzodiazépines aux enfants. C'est-à-dire benzodiazépine, c'est du Valium, du Lexomil, en fait tous ces médicaments. Et c'est tellement dangereux que les pédopsychiatres commencent à renoncer à donner des benzodiazépines. Et bien entendu, ils remplacent par de la Ritaline. La Ritaline, c'est tout simplement une amphétamine.
Alors, vous parlez, quand on parle du loup, on envoie les oreilles parce que le docteur Plantet vient de faire son entrée, non pas dans le studio, parce qu'il n'y a pas le droit, il ne s'est pas déclaré à la douane, mais dans la cabine technique. Alors, il va vous écouter avec attention parce que ce genre de choses, ça fait des années qu'il me le dit, mais j'avais jamais vu écrit sur du papier comme ça.
Oui, beaucoup de livres, pour abonder dans votre sens, beaucoup de livres dénoncent les prescriptions de ces médicaments, mais sans dire exactement ce qui s'est passé. Mais là, ce sont des témoignages réel.
Et puis vous n'allez pas avec le dos de la cuillère, si j'ose dire. Vous écrivez, par exemple, le rapport du professeur Édouard Zarifian qui restituait tous ces dysfonctionnements est resté dans les tiroirs du ministère de la Santé, mais aussi dans ceux des juges d'instruction. Ces magistrats semblent muselés dans ces affaires de médicaments psychotropes.
Tout à fait, oui, bien entendu. C'est une affaire d'État.
Une complicité silencieuse de la justice en face de...
Oui.
Enfin, de ce qui est un... C'était des produits criminels, quoi.
C'est un crime contre l'humanité, bien sûr. Oui. C'est effroyable.
C'est ça. Les effets secondaires du Prozac sont principalement des troubles sexuels, une augmentation des pensées suicidaires. À l'adolescence, le passage à l'acte est renforcé par une instabilité naturelle propre à cet âge. Les gens ne sont pas égaux devant les molécules, c'est ce que vous nous disiez.
Non.
Et alors, grande tristesse, incapacité d'agir sont les principaux caractères de la dépression. La tendance est de demander et d'obtenir trop facilement un traitement lourd, souvent mal adapté. Mais le médecin n'a pas à faire plaisir au malade en lui accordant ce qu'il demande, et le malade n'a pas à imposer son avis. Oui, ça c'est dans l'absolu, mais dans la réalité, c'est pas ce qui se passe. Le distilbène pour les enfants, on en est à la troisième génération de plaintes. Cancer du vagin ou des testicules, atteinte psychiatrique, le produit est toujours sur le marché, mais seulement pour traiter le cancer de la prostate. Bon courage aux cobayes, dites-vous.
Oui, enfin, je pense que...
On peut
trouver une autre solution.
Alors, vous prenez un certain nombre d'affaires. Alors, je parlais de l'affaire Reviriego, mais vous traitez d'autres affaires. Alors, il y a une chose totalement inattendue. Ce sont les pages que vous consacrez à l'affaire Durne, le tueur de Nanterre.
Tout à fait.
Où il va vous apporter une lumière que personne n'avait jamais apportée sur cette affaire extraordinairement mystérieuse. Pourquoi ce type, d'un seul coup, s'est-il mis à tuer la moitié du conseil municipal de Nanterre, sans même sélectionner les communistes, ce qui, à mon avis, était... c'est une maladresse, au moins, quoi. Quand les malades se sont suicidés et qu'ils ont commis des actes criminels, on classe le dossier sans suite, écrivez. Non, ça, il faut pas vous formaliser, monsieur Imbert.
Je ne me formalise pas.
Habituel chez nous, faut pas.
Mais moi, je ne l'avais pas pris pour une plaisanterie. J'étais tout à fait d'accord avec votre.
Et on classe le dossier sans suite, comme pour le drame de Nanterre, où le schizophrène, entre guillemets, était au moment des faits sous l'empire du Nordaz.
Tout à fait.
Succès d'année du Valium, il était soigné, mal soigné, puisqu'il a tué 8 personnes. Le Figaro et François, qui commentent la fusillade, s'interrogent sur le rôle des antidépresseurs dans le passage à l'acte en 2002 de Richard Durne. Le Figaro pose cette question, la prise de certains antidépresseurs peut-elle déclencher le basculement d'un individu dans la plus implacable violence ? Pour considérer que cette question pourrait aujourd'hui éclabousser le monde de la psychiatrie française. Et alors effectivement, après, bon, une fois qu'on a fait ça, ben, on n'en voit plus.
Oui, d'ailleurs, il faut s'étonner que Madame Durne, qui avait voulu déposer plainte à la suite du décès de son fils, elle voulait savoir, elle voulait s'interroger, avait comme avocat l'un des cabinets qui défend l'industrie pharmaceutique de manière habituelle. D'ailleurs, c'était assez curieux. Et d'ailleurs, cet avocat m'a fait une lettre que je ne la cite pas dans mon ouvrage parce que la lettre est déclassée. Comme on reçoit des milliers de courriers.
À l'association.
Hein. Oui,
il faut rappeler que Richard Dion a réussi à sauter par la fenêtre du sixième étage pendant sa garde à vue.
Par le Valium.
Alors, je ne veux pas vous pousser au complotisme, mais c'est vrai que c'était, à l'époque, tout le monde était un peu troublé et se demandait comment on peut se suicider de cette façon quand on est gardé à vue par la police à la préfecture en plus.
Et alors, ce qui est dans l'affaire Durn en plus, vous révélez, enfin vous rappelez, je ne sais pas si c'est une révélation, vous rappelez que le procureur de la République de Nanterre, Yves Bott, a décidé de poursuivre l'enquête sur la tuerie de la mairie qui aurait pu être close après le suicide du tueur Richard Durn dans les locaux de la brigade criminelle à Paris, a-t-il annoncé à l'AFP. Le décès de Richard Durn ne met pas la fin à l'enquête, l'ensemble des circonstances qui ont entraîné et amené le drame sera examiné par le prolongement des investigations, a précisé le procureur. Mais apparemment, il n'y a pas eu de suite, là.
Non, mais le procureur...
C'était des paroles verbales.
Oui, le procureur botte. Il botte toujours en touche. Toujours.
Voilà. Alors, Francis Holmes, un autre personnage intéressant du bestiaire français, a été remis en liberté sans rien prendre, sans prescription obligatoire de Valium. Holmes avait été remis en liberté sans rien prendre, si on ne lui avait pas fait une prescription obligatoire de Valium, aurait-il tué ? Son avocat du barreau de Nancy m'a confirmé qu'il avait pris du Valium avant chacun de ses passages à l'acte. À Luxeuil, un jeune fils d'agriculteur, autre histoire qui fait beaucoup de bruit, Christian Dormier, a tué une quinzaine de personnes de son village. Déclaré fou au moment du passage à l'acte et non responsable de ses actes par les experts psychiatres, Dornier était aussi sous l'empire des anxiolytiques. Enfin, on a l'impression que ce soit l'affaire de Hearn, l'affaire Carata, l'affaire Dornier, l'affaire du massacre de Nanterre, l'affaire de Luxeuil, à chaque fois,
on reprend chaque affaire criminelle. Et on retrouve les mêmes produits. Et on retrouve des experts qui disent, mais oui, il est passé à l'acte en raison de ces produits. Alors, on diminue un peu la peine, des fois, ou on l'augmente. Enfin, ça ne change pas grand-chose, puisque on a même modifié le code pénal. C'est-à-dire que l'ancien article 64 a été modifié. L'ancien article 64, c'était « il n'y a ni peine ni délit lorsque l'individu est en état de démence ». Enfin, quelque chose... Et donc, on a modifié légèrement le code pénal, de manière à pouvoir condamner quand même le malade mental sous psychotrope.
Mais en fait, alors s'il y a un cas dans lequel on peut considérer qu'il est en état de démence au moment de la commission des faits, c'est bien celui-là.
Bien sûr.
Si on prend un produit, en plus avec une prescription médicale, donc le gars, on peut même pas dire. Je vous donne la parole tout de suite, Dominique. Mais vous parlez du Rohypnol parce que vous citez le docteur Jamouille qui a appelé, qui a parlé de l'effet Rambo, en disant qu'il y a des gens qui pour se transformer en Rambo, en sachant pertinemment quels en sont les effets, prennent du Rohypnol, produit sous l'effet duquel la personne répond violemment à la moindre provocation, à la moindre remarque. C'est un produit pour dormir, mais d'autres l'utilisent deux jours pour lever les inhibitions et aller voler, faire des attaques à main armée, des braquages. Ce médicament donne du courage, n'a pas de limite dans la violence. On peut tuer son père et sa mère sans s'en rendre compte. Et alors, vous parlez d'un documentaire de plusieurs séances qui a été diffusé et qui montre toutes les bizarreries engendrées par le Rohypnol, substance hypnotique plus active que le simple Valium. Ce petit film présente des témoignages en crescendo. Et bien, dans ce cas-là, le gars qui prend volontairement du Rohypnol, il est pleinement responsable de ce qu'il fait par la suite, puisqu'il s'est mis volontairement dans cet état. Mais celui qui se contente d'appliquer une prescription médicale et qui devient
un pur fou, il est innocent.
Et on va l'envoyer, comme cette dame Ruyaniego, on va l'envoyer en prison pour perpétuité.
C'était une infirmière de l'hôpital qui s'occupait, comme vous l'avez dit, des personnes âgées. Enfin, bon, elle était certainement, elle avait un profond déséquilibre, mais elle avait quand même élevé deux enfants. Elle venait de divorcer, elle avait vécu une vingtaine d'années avec quelqu'un, avec un homme. Donc, il n'y avait pas de raison qu'elle passe à l'acte d'une manière aussi effroyable.
On peut être contre le divorce, mais ça, c'est quand même des moyens extrêmes de résoudre les problèmes conjugaux, de découper son compagnon en petits morceaux et de le distribuer dans les poubelles du quartier.
Parce que vous écoutez, on risque de devenir dépressif, compte tenu de tout. Non, la règle générale, c'est que tous ces produits sont dangereux, mais il y a des alternatives naturelles. C'est-à-dire, c'est exactement comme en matière alimentaire, il y a l'aliment chimiqué, il y a le bio. Et je veux dire que en ce qui concerne les médicaments en général, hein, parce qu'il faut savoir que ce sont les mêmes groupes industriels qui sont les groupes chimiques qui font les médicaments et qui font les produits utilisés en agriculture. Donc c'est le même système finalement. Mais ce système n'est pas obligatoire. Il y a une alternative à ce système, et en matière de santé, il y a quand même un certain nombre de possibilités thérapeutiques naturelles.
Non, vous avez l'air dubitatif.
Non, pas du tout, mais le livre ne s'occupe pas de...
Oui, vous ne faites pas de
prescription.
Vous faites un état des lieux.
C'est un état des lieux, des témoignages, et c'est... Bon, par exemple, pour le Vioxx, on peut annoncer déjà que les personnes qui ont été victimes du Vioxx, il faut qu'elles adressent leur témoignage à l'association avant septembre 2006, parce que nous envoyons tous les dossiers aux États-Unis, puisqu'en France, on n'arrive pas à obtenir justice.
C'est incroyable, mais qu'est-ce que c'est que ce pays? Enfin, quel que soit le sujet évoqué, on entend des combines, des mafias, les types disent on ne veut pas s'occuper de ça, voilà, profitez-nous la paix, laissez-nous nous goinfrer, gagner notre fric.
Oui, le système judiciaire est absolument effroyable, mais les avocats aussi, il y a beaucoup de problèmes. Par exemple, un avocat, j'ai reçu un dossier la semaine dernière où l'avocat demandait 25% à peu près d'honoraires.
Il a écrit ça?
Oui, j'ai la convention d'honoraires, oui. Et même moi, je ne pensais pas qu'il l'avait écrit. La victime m'a envoyé. Alors, la victime, elle est quand même hémiplégique dans un fauteuil roulant, donc elle a signé. Mais c'est pas ça, c'est qu'il lui a demandé. Cette avocate, c'est une femme du barreau d'Aix, elle a demandé quand même un compte de 15 000 francs, enfin je vais parler en francs, donc 15 000 francs, et comme cette pauvre femme qui est dans son fauteuil roulant n'avait pas d'argent, elle lui a fait un crédit.
Elle lui a pas volé le fauteuil roulant. Quoi.
Elle lui a pas volé le fauteuil roulant, mais elle lui a fait un crédit. Donc tous les mois, cette pauvre hémiplégique devait donner 1 500 francs pour que l'avocate la défende. Et là, comme elle ne peut plus payer, donc elle ne veut plus la défendre. Alors bon, aux États-Unis, c'est peut-être des requins, ils prennent des pourcentages énormes, mais ils ne demandent rien aux victimes. C'est pour ça qu'on envoie les dossiers, notre association envoie les dossiers aux États-Unis. Mais en France, l'avocat demande, non seulement il demande souvent un fort pourcentage, mais en plus de l'argent. Alors, demander une petite somme pour ouvrir le dossier, ça peut se concevoir, c'est normal aussi, il faut que l'avocat puisse gagner sa vie. Mais demander tous les mois un peu d'argent à un malade, mais ça, c'est effroyable. Et encore, alors l'avocate m'a répondu, mais vous vous rendez compte que je lui fais un crédit? Bon,
c'est elle mérite la Légion d'honneur.
Elle m'a pris une heure de mon temps, j'arrivais pas à raccrocher, et c'était épouvantable.
Nous avons des appels.
Oui.
Victoria, vous voulez lire les messages, s'il
oui,
vous plaît.
Bien sûr. Pourquoi la France est-elle accro aux tranquillisants? Je propose un début de réponse que j'emprunte au docteur Diem, qui intervient souvent ici. Parce que les Français vivent dans la laideur. Oui, un auditeur, à propos des antidépresseurs.
Donc, regardez la télé.
Qu'en pensez-vous? Y a-t-il des effets secondaires?
À quoi?
Ben, si vous prenez des antidépresseurs, y a-t-il des effets secondaires?
C'est tout le sujet de ce qu'on vient de dire depuis
oui.
une minute.
Enfin, attention, justement, oui, on ne peut pas, il ne faut pas faire l'amalgame entre tous les produits, et ça, je l'explique bien dans l'ouvrage. Les antidépresseurs, pris seuls pour la dépression, peuvent donner des résultats intéressants. Enfin, c'est ce que prétendent certains professeurs de psychiatrie. Par contre, c'est très très rare qu'ils soient prescrits seuls. Ils sont toujours prescrits avec des anxiolytiques, qui sont, eux, des médicaments extrêmement dangereux et que l'on ne doit jamais prescrire en cas de dépression. Donc on tombe dans une sorte d'amalgame, enfin d'interaction de médicaments particulièrement dangereuse.
Faut-il... Donc vous êtes d'accord qu'il ne faut pas supprimer toute prise de ce genre de médicaments?
Ah, certainement, il faut peut-être
messieurs...
utiliser correctement, voilà.
Mais... Ces messieurs me font peur. Depuis 17 ans que j'ai perdu mon fils, je prends du Lexomil tous les soirs, rassurez-moi. Eh bien,
apparemment, Monsieur Albert n'a pas l'air d'être disposé à vous rassurer.
Ben, je pense que moi aussi, j'ai perdu mon fils, et ça va faire 14 ans, et je ne prends pas de Lexomil, et...
Et vous dormez quand même?
Je dors, oui, je dors.
Mais enfin, tout le monde, vous savez, il faut, tout le monde n'a pas les mêmes capacités de.
C'est vrai, c'est vrai.
De, comment dirais-je, de maîtrise de soi, de survie morale, intellectuelle.
Mais c'est vrai que. Gens,
je comprends que.
Certains jours, je suis triste et je pense à lui. Puis j'irai le rejoindre un jour. Mais bon, je vais pas prendre un médicament qui va me rendre joyeux, qui va me doper. C'est même complètement anachronique. C'est oui. Absolument effrayant.
C'est ça qu'il fallait dire, effectivement. Vous avez raison.
Vous écoutez Radio Courtoisie et à vous aussi, il est donc permis d'être joyeux, sans médicaments.
Un tour qui vous conduit tout droit au cimetière. Parfait.
Vous pouvez vous endormir en écoutant la radio.
Et nous recevons le docteur. Pourquoi je veux dire le docteur? C'est énervant. Enfin, monsieur Georges-Alexandre Imbert.
Président.
Président de l'association d'aide aux victimes des accidents de médicaments. Des médicaments. AAVAAAVAM. C'est presque comme.
Ça
semble en moins agréable. Ah, oui. Créé en 92. Allez-y.
Un auditeur, si les antidépresseurs sont un poison, comment traiter la dépression?
Non, je crois que M. Imbert vient d'expliquer.
Oui, oui.
C'est pas ça le arrêtez-moi si je me trompe. C'est pas l'antidépresseur qui est un poison, c'est l'usage maladroit qu'on peut en faire qui est dangereux.
C'est
on le mélange avec un autre produit, on peut provoquer une bombe atomique.
Et puis il faut éviter de continuer de prendre des produits chimiques pendant trop longtemps, parce que je crois que c'est simple à comprendre que pendant quelques jours, ça peut être profitable pendant.
Une vie, c'est pas normal.
Bien sûr, bien sûr.
Et alors, que pensez-vous de la campagne médiatique sur les troubles obsessionnels compulsifs auprès des médecins pour les inciter à prescrire? Et dans les émissions de télé auprès du grand public?
Écoutez, puisque le gouvernement autorise ce genre de choses, donc il faut faire de l'argent. Les multinationales, elles utilisent ce qui est permis, puisqu'on ne leur dit rien.
Bah tiens. Et on vous demande si le donormil est dangereux, donc ils les mettent dans la même catégorie.
Alors, je pense que.
Dans les foyers, une auditrice nous signale que dans les foyers médicalisés pour enfants, on donne souvent des produits de ce genre pour les calmer.
Ben oui, c'est effrayant. Des enfants qui n'ont pas encore un cerveau complètement formé, leur donner déjà des...
En bas de mon temps, on donnait un petit peu de calva dans le lait. Le seul résultat, c'était parfois, au bout de 5-6 générations, une légère luxation congénitale de la hanche, mais c'était quand même moins grave que...
Serge, mon cher Serge, auriez-vous quelque chose en fin d'émission qui nous remonte le moral?
Mais oui, on va vous remonter le moral, vous allez voir.
Remonter les bretelles.
Et alors, qu'avez-vous à offrir à la place des psychotropes? Voilà.
Rien.
Bon.
Mais ça, c'est pas le problème de M. Imbert. Je crois que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que M. Imbert est président d'une association d'aide aux victimes, mais il n'est pas prescripteur de produits.
Je pense que déjà d'écouter Radio Courtoisie, on est informé. Donc, étant informé, on est moins.
Merci, docteur. Il n'y a rien à faire. Alors, ça, c'est. Comme René Prival.
Il va encore l'appeler, Arthur.
Comme tout un chacun, et ben vous êtes docteur.
Vous pouvez m'appeler docteur, je suis habitué à ce qu'on appelle
docteur.
Docteur
en droit ou docteur en sciences ou
Non, je suis
docteur en rien.
Un pauvre président d'association de victimes,
alors,
voyez.
Je vais vous faire un cadeau, je vous donne un numéro de téléphone aux États-Unis, vous appelez, et moyennant une somme extrêmement modeste, vous recevez par retour du courrier un diplôme absolument authentique, parce que un des effets de la liberté d'enseigner aux États-Unis, c'est qu'il y a des types qui créent des universités. Et donc il y a un gars qui a créé une université dans laquelle il vend des diplômes de médecine, des diplômes d'avocat, des diplômes de n'importe quoi, donc vous écrivez, c'est assez cher, mais vous pouvez tapisser votre salle de séjour de diplôme ou je vous donne un numéro de téléphone, c'est très très pratique pour tromper l'ennemi. En plus, on dit que vous avez fait des études aux États-Unis, c'est formidable, c'est très chic.
C'est gratifiant.
Et alors, plusieurs auditeurs nous demandent, je ne sais pas si vous l'avez dit pendant que j'étais sortie, quel est le titre du livre du docteur, oui, tout le monde le dit. Quel est le livre et comment épelez-vous le nom de cet invité? Alors, vous voulez bien, je vais l'épeler. Georges-Alexandre Imbert, I-M-B-E-R-T, tranquillisant, somnifère, neuroleptique, ses faux amis. Et puis antidouleur, l'affaire du Vioxx, témoignage, question-réponse. Préface du docteur. Dominique Vasseur.
Ah, je sais bien qu'il y a un docteur.
Ça se passe aux éditions du Dauphin et ça coûte 16 euros. Alors, voilà, vous savez tout.
Dernière question, monsieur Humbert, est-ce que vous pouvez nous, vous pouvez résumer l'affaire du, ce que vous appelez l'affaire du Vioxx?
Oui, l'affaire du Vioxx, c'est un petit peu nouveau parce que, en réalité, pour un laboratoire pharmaceutique, que les gens meurent de leurs produits, ça ne les interpelle pas vraiment. Ce qui les intéresse, ce qui est plus grave dans l'affaire du Vioxx, c'est le côté financier. C'est-à-dire que les actionnaires qui avaient fait confiance au laboratoire Merck, tout d'un coup, ont vu leurs actions baisser de moitié. Et ça, ça leur a pas plu du tout. Donc, les class actions, les actions collectives, qui commencent d'ailleurs à prendre forme aux États-Unis. J'ai reçu un courrier tout à l'heure qui m'annonce que les class actions sont autorisées. Ça ne l'était pas depuis l'affaire depuis l'année dernière, puisque ça fait environ un an que cette affaire a eu lieu.
Donc, aux États-Unis, l'action se passe aux États-Unis, n'est-ce pas? C'est-à-dire partout.
Oui, parce que les brevets sont internationaux. Donc, pour un médicament, on peut très bien assigner aux États-Unis ou au Canada.
Merck est américain, n'est-ce pas?
Merck est américain depuis la dernière guerre, puisque c'est des dommages de guerre. La société Merck a été partagée en deux. Donc, il y a un Merck qui est resté allemand et un Merck qui est américain. Dommage de guerre.
C'est-à-dire qu'avant, ils fabriquaient des produits qui tuaient, mais c'était mal. Maintenant, c'est bien. Voilà. La différence, c'est ça.
C'est à peu près ça. Alors là, donc, il y a class action des actionnaires, class action des organismes sociaux aussi qui ne sont pas contents, et class action collective aussi des victimes. Bon, les victimes, ça n'ira pas chercher très loin, c'est de 250 millions de dollars par-ci, 250 millions de dollars par-là, mais ce n'est pas grand-chose, parce que les actionnaires, eux, sont beaucoup plus virulents.
Eh oui, parce que
c'est de l'argent, c'est important. Hein.
Surtout que dans l'affaire du Vioxx, justement, les sommes en jeu sont gigantesques.
Elles sont considérables. Elles sont considérables et je pense qu'il y a d'autres laboratoires pharmaceutiques avec d'autres produits qui sont également sur la sellette.
Alors, il y a beaucoup de ces produits aussi qui sont nés de la recherche militaire, notamment pour lever les inhibitions. On y faisait allusion tout à l'heure. Et un auditeur nous dit, certains produits ont été développés dans le but de produire une pilule antipanique pour usage militaire, destinée aux instants de stress intense au combat, ou lors d'usage d'armes de destruction massive, en particulier nucléaire tactique. Les effets de levée d'inhibition sont connus depuis l'origine du Xanax en particulier, avec passage à l'acte et hallucination. Ça me rappelle quand même le fait qu'en ce moment sort sur les écrans Astérix et les Vikings, où Astérix cherche le secret non pas de la levée de l'inhibition panique, mais le secret de la peur. Si vous voudrez savoir, c'est plutôt les Vikings qui cherchent comment on a peur, comment on peut bien.
On donnait déjà des anxiolytiques aux poilus pour monter au front à Verdun.
C'était plutôt du pinard qu'on leur donnait.
Oui, on leur donnait de l'absinthe, on leur donnait des. Oui, ça, mais c'est des anxiolytiques, c'est la même chose, hein, sauf que l'anxiolytique alcool n'est pas prescrit sur ordonnance. C'est pas la même chose. On vous ordonne un produit qui va vous occasionner des troubles du comportement. C'est très grave.
Et voilà un témoignage, comme vous en avez recueilli des milliers. J'ai été victime du Prozac qui m'a été prescrit en dehors de toute dépression, comme adjuvant d'un régime amaigrissant. J'ai interrompu ce médicament le jour où je me suis aperçu que sans aucune raison, j'avais envie de me jeter contre un arbre avec ma voiture.
Voilà. Voilà, disons que le Prozac peut effectivement donner des idées suicidaires.
Précisons que c'est un produit euphorisant en principe, au départ.
Oui, mais c'est très marrant de se jeter contre un arbre avec sa voiture.
Il est vendu comme tel, en tout cas.
Voilà, et puis pour rassurer Jean Ferré, ignorez-vous, malgré vos nombreux démêlés judiciaires, que chaque nom de spécialité pharmaceutique que vous citez sur l'antenne, en leur prêtant des nuisances non encore démontrées, peut et expose Radio Courtoisie à des poursuites auprès des tribunaux. Alors on fera appel au service de l'association d'aide aux victimes des accidents de médicaments pour apporter le dossier qui me paraît amplement de nature à démontrer les effets nocifs de certains produits dans leur mauvaise utilisation. Voilà. Je rappelle le titre de ce livre de Georges-Alexandre Humbert, préfacé par le docteur Véronique Vasseur, Tranquillisant, somnifère, neuroleptique, ses faux amis, Antidouleur, l'affaire du Vioxx, témoignage, question-réponse. Et c'est un livre qui se lit vraiment, j'espère que vous le prendrez pas mal, mais comme un roman d'horreur. On se dit, c'est pas possible. Moi, j'avance. Hein?
J'hallucine.
Mais j'hallucine.
J'aberre.
Oui, oui. Et finalement, on se dit qu'on est bien heureux avec nos rhumatismes et nos petites douleurs parce que. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez, Marquis? Vous qui êtes aussi.
J'ai toujours été absolument contre tout ce qui était tranquillisant, somnifère et tout le bazar. Mais je suis entouré de gens qui en prennent et ça commence à m'inquiéter parce que.
Un de ces quatre patrons devant retrouver des coupeurs morceaux dans les poubelles du quartier.
Oui.
Et en plus, c'est agaçant parce qu'ils ne vous écoutent plus. Ils ne vous écoutent plus.
L'éditeur va porter plainte comme les traces pharmaceutiques parce que vous ne l'avez pas cité. Ce sont les éditions du Dauphin.
Je l'ai dit tout à l'heure.
Alors, pouvez-vous nous dire quelques mots sur ce que vous reprochez à la Révolution bleue? Mais non, je ne vais pas vous le dire, il faut lire le Libre Journal, pensez bien. Je ne vais pas vous donner gratuitement à la radio ce que vous pouvez avoir moyennant un carnet de timbres. Envoyer 4 places France Lit.
De toute façon, ce qu'on en pense, mais ça coule de source.
Ça coule de source, exactement. Mais je vous préviens, le titre c'est « La Révolution bleue, un remède pire que le mal ». Quand vous aurez lu l'article, vous ne viendrez pas me chercher des poux dans la tête. Hein,
c'est dans le numéro 376. Mais je l'ai déjà dit tout à l'heure.
Oui, mais il faut le dire. Il faut dire « Attention, il y a peut-être un piège, on ne sait pas, il faut lire cet article ». Qui n'a rien à voir avec le livre de Monsieur Humbert. Merci Monsieur Humbert d'avoir pris la peine de venir nous rendre visite et de nous avoir fait peur.
C'est moi qui vous remercie.
Mais j'espère. Ah oui, il faut donner quand même les coordonnées de l'association.
Parce que maintenant, je suis en train de les noter.
Il y a
alors.
De plus en plus d'internautes qui nous demandent et il y a un site internet.
Alors je vous dis le titre au complet d'abord. Précis.
Donnez-nous le site internet.
Ça va. Oui. Ronfler. Mais il est très beau celui-là. Alors donc président de l'association d'aide aux victimes des accidents des médicaments. AAAVAM. Et je vous dis le site internet. http://:// www.aaavam.com. C'est pas beau, ouais. Ça,
vous alors, vous faites aaavam.com et sur un ordinateur normal, ça doit marcher. Si vous voulez mettre devant, vous êtes parfaitement bon.
Mais vous pouvez même donner le téléphone de l'association, si vous voulez.
Il est où?
01 41 10 87 00.
10 87 00. Vous l'avez?
Ça y est, c'est fait.
C'est bien, bravo.
Voilà.
Merci beaucoup.
Bonsoir, docteur.
Alors, message. Maintenant. Alors, message à Goffman. Alors, Goffman, 90 minutes de SDB et on n'a encore rien niqué. Je propose donc pour commencer de niquer le 20h, suffit de consulter sur le net français n'importe quelle page d'info pour avoir les titres spéciaux, les titres principaux, bien à vous, Pierre-Henri. Alors les titres du 20h, on va vous les donner d'ailleurs, oui. Selon le FMI, la croissance mondiale devrait remonter en 2006, t'as qu'à croire. PSA, Peugeot, Citroën ferme son usine en Angleterre. Prodi, et non pas Prozac, attend la confirmation officielle de sa victoire. Le sud-est de l'Europe menacé par la crue du Danube. Le Tchad maintient les élections présidentielles du 3 mai. Ça, voilà. Foot, Arsenal, Villarreal en demi-finale de la Ligue des Champions. C'est n'importe quoi. Michel Vauzel déclare qu'il soutiendrait Ségolène Royal. Les USA pressent la Chine dans les négociations avec l'OMC.
J'ai peur.
C'est presque une contre-pétrière. Les associations bien pensantes et bien subventionnées dénoncent la circulaire sur les conditions d'interpellation des étrangers en situation irrégulière. En cas de conflit avec l'Iran, Moscou ne s'engagerait ni pour ni contre. Ça, c'est exactement comme la gouvernante de mon vieil ami Genevois, qui un jour à table disait du mal de gens dont on ne doit pas dire du mal, et pour embêter sa gouvernante qui était là, il lui dit « Hein, Nanou, qu'est-ce que t'en penses ?» Et elle lui dit « Oh, moi, monsieur... Moi, monsieur... Jean, quel est son prénom, j'ai oublié.
HTTP, non.
Oh, moi, monsieur, machin, je suis ni pour ni contre, bien au contraire. Voilà. »
En tout cas, on peut remercier le spirituel Pierre-Henri qui vient effectivement de nous donner la quintessence du journal télévisé, moins les images truquées et de mauvais goût. Donc on reste avec Radio Courtoisie et on éteint sa télé. On la tourne contre le mur même, de préférence.
D'autant que nous recevons maintenant Dominique Tasso, vous avez déjà entendu la voix tout à l'heure. pour parler de la sortie du numéro 35 du CEP, la revue du Centre d'études et de prospectives sur la science, qui est une petite, par le format, une revue de poche, un format de poche, que j'aime énormément parce qu'il y a toujours des choses passionnantes, originales, rares, surprenantes, amusantes, réjouissantes, et que dire encore, quel est le mot qui vous font progresser dans la voie d'une saine compréhension de l'écriture. Voilà, je sais pas s'il y a un mot pour dire ça.
Enrichissante.
Voilà, enrichissante. Merci, Vivi. Ce numéro comprend les articles suivants. L'étrange du scientifiquement correct, par Dominique Tasson, on va en parler. La finalité dans la science, article du cardinal Schönborn. La Shahada et son contexte historique. La lutte des Hongrois contre les Turcs. Alors, ça, j'ai déjà lu ce papier, et je dois dire que c'est un incroyable enfilement de trahison et d'abandon. On voit comment l'Europe a laissé systématiquement les pauvres peuples qui étaient au contact avec les Turcs se débrouiller tout seul en leur promettant de l'aide et en ne l'apportant jamais. Ça, c'est... Non.
Ah oui, c'est sûr que ça fait découvrir quand même la lutte des Hongrois qui est tout à fait étonnante.
C'est vraiment le rempart de l'Occident.
Et comme dit Madame Archavski, c'est un témoignage d'espoir, parce que ça montre que quand on se bat, on n'est pas forcément vaincu.
Il y a quelques exceptions quand même. Jean Sobieski de Pologne a quand même mis en déroute le Turc devant Vienne, si je me souviens de ce qu'on m'a raconté.
Oui, mais justement, parce que c'était devant Vienne. Le problème des Hongrois, c'est qu'ils étaient un peu plus loin.
Voilà.
Oui, mais eux étaient plus loin de nous, mais plus près des autres. Tout est là.
Oui.
Pour une fois que je dis du bien de la Pologne.
Oui, ça sera rapporté.
Ça tombe à plat.
Ensuite, Galilée dans la sacristie, Dominique Tasso, lettre au pape Benoît XVI. Un regard sur la création, ça c'est le papier, j'adore ce genre de papier. L'appareil digestif dynamique par Gillen, Sherwin et Knowles. Et le regard sur la création, c'est toujours passionnant. Je me souviens d'un petit papier notamment, dont je parle souvent, qui expliquait comment de minuscules piafs qui pèsent 12,5 grammes peuvent voler pendant 10 000 kilomètres. Et c'est tout à fait incroyable. Ils arrivent à faire des réserves de graisse qui leur permettent de vivre et de s'activer, parce que c'est long, un vol migratoire.
On va voler longtemps, nous, si c'est une question de graisse.
Oui, mais il faut nous porter aussi. Non, mais nous, la différence entre... Vous connaissez la différence entre les hiboux et puis d'autres?
Non.
Parce que les autres, ils volent pas. Ils volent, les hiboux ne volent que la nuit,
oui,
plus exactement.
Voilà. C'est ça.
D'autres articles. Monsieur Deken, à la Deuxième Guerre mondiale, l'impact avec Satan. Un lexique de Moseski. Et science aujourd'hui et problème de la Genèse. De Patrick. Patrick O'Connell. Et ça aussi, j'aime beaucoup ce genre de papier, parce que c'est une façon toujours originale et intéressante de lire la Bible. Alors, là, vous consacrez un article, Dominique Tasco, la montée en puissance des opposants au darwinisme aux États-Unis. Et on a fait un papier, d'ailleurs, un peu sur le même thème, enfin, c'est Glossy qui a fait un papier sur le même thème dans le Libre Journal, qui vient de publier, d'ailleurs, un petit bouquin
sur les géants.
Délicieux sur les géants. Vous l'avez lu?
Qu'il m'a envoyé, que je vais recenser certainement dans le prochain numéro.
C'est intéressant, hein.
Oui.
C'est tout à fait incroyable, ce truc sur la race des géants.
Et là aussi, ça fait partie de faits dont beaucoup sont un petit peu escamotés.
Ouais. Alors, bon, est-ce que vous pouvez résumer, en fait, parce qu'on a l'impression que c'est un affrontement, j'en parlais avec Raphaël Duboyen il n'y a pas très longtemps, un affrontement entre l'évolutionnisme et le créationnisme, c'est bien différent, en réalité, il y a des nuances.
Oui, c'est plus compliqué, mais disons, ce qui est intéressant dans la phase actuelle de ce débat, c'est le côté sociétal. Parce que si vous voulez, les États-Unis sont quand même une société assez... moralisatrice, assez, enfin dans laquelle la Bible a encore un rôle important. Il y a une prière à l'école le matin. Bon, le président prête serment sur une Bible. Je ne l'ai pas lu cette Bible, mais enfin c'est quand même une Bible. Et l'élément nouveau, c'est que la, bon, ce qu'on appelle cette montée en puissance, c'est pas une montée en puissance, c'est une montée en nombre. C'est-à-dire qu'actuellement, les sondages, et encore récemment un sondage Gallup, par exemple, chez les enseignants de sciences naturelles de l'école publique. Et ce sondage donnait une majorité de ces enseignants contre la théorie de l'évolution. Donc, c'est ça l'élément intéressant, c'est que, alors que bon, ce qu'on appelle le créationnisme aux États-Unis a vraiment démarré dans les années 50, avec un livre qui s'appelait le Déluge de la Genèse de Whitcomb et Morris. Donc, mais ça a démarré à une petite échelle et ça a démarré, disons, chez des évangéliques et des baptistes, mais qui étaient très minoritaires dans leurs propres églises. Et c'est un phénomène, évidemment, lié à la religion. Le créationnisme, ce sont les gens qui ont dit, mais nous, enfin, notre religion est basée sur la Bible, hein, évidemment, aux États-Unis, c'est un protestantisme biblique, hein, qui est là. Et, la théthéorie de l'évolution est contre, évidemment, dans la Genèse, on dit, bah, Dieu a créé chaque être selon son espèce. Donc, M. Darwin dit le contraire, nous sommes pour la Bible contre Darwin. Bon. Et évidemment, ça se traduit par des procès. Alors, il y a eu le fameux procès Scopes dans les années 35. Hein. Et puis, récemment, maintenant, tous les ans, il y a des procès. Hein, c'est pas... Donc, l'élément nouveau, c'est que ce mouvement créationniste qui était tout à fait squelettique dans les années 50, alors, c'est développé numériquement. Donc, aujourd'hui, vous avez tout un réseau d'écoles privées qui ont le label de créationniste. Et à ce moment-là, les parents mettent en confiance leurs enfants dans cette école parce qu'ils savent qu'on ne va pas enseigner la théorie de l'évolution, par exemple. Bon. Et puis, vous avez, en parallèle à ce mouvement créationniste, qui est typiquement américain, vous avez l'Intelligent Design Movement. Le mouvement de ce qu'on appelle l'intelligence intentionnelle. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que ce mouvement a un profil tout à fait différent, et les adversaires habituels des créationnistes, du coup, ne savent pas très bien comment le gérer, et ça les gêne énormément, et le fait que ça les gêne, alors là, on le voit arriver en France, parce que l'année dernière, Le Monde avait fait un numéro spécial là-dessus, il y a eu, au mois de décembre, Le Nouvel Observateur, qui a fait un hors-série de 80 pages, La Bible contre Darwin, et après la parution du CEP, mais on vient de me l'apporter, La Recherche, donc qui est quand même un journal scientifique important en France, donc fait son numéro, titre « Dieu contre Darwin ». La théorie de l'évolution est-elle menacée? Alors, ça, ce qui est très intéressant dans ces deux titres, c'est que justement, le titre montre que l'initiative est chez les gens d'en face. Et c'est ça l'élément nouveau. Et c'est ça qui leur fait peur, si vous voulez, c'est l'élément sociétal. C'est le fait que, au lieu que, bon, nous sommes habitués à une société où tout le monde suit le politiquement correct, le religieusement correct, le scientifiquement correct. Et puis on a, aux États-Unis, mais pas qu'aux États-Unis, maintenant, des gens qui, finalement, ont viré leur cutie, ne sont plus du tout impressionnés par les grandes affirmations de professeur machin qui n'admet pas la contradiction. Vous avez eu récemment en Hollande une ministre de l'éducation, Madame Van Reven, qui a demandé à ce qu'on enseigne justement les deux théories. Hein, à titre de... Et comme dit d'ailleurs Bush, dans un discours qui est évidemment qui était devant des journalistes au Texas, a dit, mais enfin, pour l'esprit scientifique, il est bien qu'on apprenne aux gens à discuter et à débattre. Bon. Donc il serait bien que les deux théories soient enseignées.
Oui, mais vous savez bien que dès qu'on ouvre la discussion sur des sujets, quels qu'ils soient, ça risque de conduire à des résultats fâcheux. Et après, on est obligé de mettre les gens en prison parce que dans la discussion, ils n'ont pas dit ce qu'il fallait.
Alors, en Serbie, il y a eu un ministre qui a pris cette position. Alors, lui, il a dû démissionner. Ouais. Et puis, vous avez, aujourd'hui, en Russie, donc depuis le mois dernier, un comité qui s'est créé, justement, en vue d'enseigner à l'école une alternative à la théorie de l'évolution. Alors, ce comité, vient seulement de démarrer, mais l'Église orthodoxe russe a déjà désigné son représentant dans ce comité. Et il se trouve que ce représentant, le CEP le connaît très bien, puisqu'on est en rapport avec lui, parce que c'est le père Constantin Bouffeyev, c'est un docteur en géologie. Et à ce titre, il a eu connaissance des travaux de Guiberto, enfin dont peut-être certains auditeurs ont déjà parlé, enfin qui a montré, si vous voulez, que les strates sédimentaires ne sont pas des couches, ne se sont pas déposées
à des longues durées. Voilà.
Et évidemment, le père Boufaïev a tout de suite vu l'importance de ces expériences. Il a d'ailleurs fait venir Guiberto au mois de janvier de l'année dernière pour faire une conférence à Moscou. Et maintenant, il est dans ce comité. Donc c'est là où je dis c'est une question sociétale, parce que l'Église orthodoxe a un intérêt important, évidemment, à ce que avoir une certaine influence sur les programmes de l'école publique en Russie. Et elle se positionne sur ce créneau. Alors ça veut pas dire, c'est pas une prise de position d'office, c'est-à-dire c'est pas l'Église orthodoxe qui prend position contre le darwinisme.
C'est de toute façon contraire même à la nature de l'Église orthodoxe qui peut pas prendre de décision d'ordre politique ou d'ordre scientifique. Il n'y a pas d'autorité qui peut dire, voilà, l'Église dit ça.
Oui, effectivement. Oui. Non, de toute façon, il y a dans l'Église orthodoxe russe des évolutionnistes, comme il y en a à foison dans l'Église catholique. De toute façon, aujourd'hui, tous les gens qui n'ont pas réfléchi à la question sont forcément évolutionnistes, puisque c'est ce qui est enseigné.
Mais si vous voulez, ce que je veux dire, c'est que si on avait, par exemple, si le Saint-Suaire avait été la propriété d'une Église orthodoxe, je sais pas,
on n'aurait pas fait les expérimentations
de Constantinople, de Moscou, le patriarcat de Moscou aurait pu dire, nous admettons les travaux le rapport Tait, et nous effectivement nous admettons que le Saint-Suaire est un faux, mais le patriarcat de Constantinople aurait dit, pas nous, quoi. Mmh. Il n'y a pas de position
des Églises orthodoxes
sur ces questions qui sont en dehors de la foi, en dehors de la foi, qui ne sont pas directement du ressort de la foi.
Oui, mais il y a un intérêt pour cette question qui s'est manifesté par la nomination du père Boufaïev dans le comité. Et cet intérêt, on le voit apparaître également aujourd'hui dans l'Église catholique, avec deux événements très intéressants. L'un, c'est une tribune libre du cardinal Schönborn dans le New York Times, le 7 juillet dernier. Alors, le New York Times, c'est un grand journal américain. Cette tribune libre, c'était relativement court, il y avait 2000 mots, donc c'est très peu, mais en 2000 mots, on peut quand même faire passer un message fort quand il est simple, et le message fort, c'était... Alors, ce qui est très intéressant, c'est que ça ne consistait pas à dire « le darwinisme est contre la foi », ça consistait à dire « le darwinisme est faux ». Alors c'est ça qui est l'élément très intéressant dans la position du cardinal Schönborn, c'est que il s'est posé autant en philosophe qu'en théologien. Il a dit, moi, en tant que... Parce que, en plus, c'est un ancien professeur de philosophie et théologie à Fribourg. Il a dit, compte tenu de ce qu'est la connaissance métaphysique, qui est une connaissance supérieure à la connaissance scientifique, dont la qualité de certitude est supérieure à la qualité de certitude de la science, eh bien, je peux dire que le darwinisme, c'est-à-dire cette espèce d'évolution graduelle au hasard, est fausse. Bon. Alors, ça n'a pas plu à beaucoup de gens qui, évidemment, aiment bien que les théologiens se subordonnent aux grandes déclarations des scientifiques. Alors, il y a eu des réactions à l'article de Schönborn, et il a répondu en partie à ces réactions dans une revue américaine qui s'appelle First Things, qui est une revue catholique de bon niveau, influente, et nous avons publié dans ce numéro, justement, avec l'autorisation de First Things, l'article du cardinal Schönborn, qui répondait à ces contradicteurs. Donc ça, c'est un des éléments de ce numéro. Et alors, c'est là où je voulais parler un petit peu de l'intelligent design, parce que c'est le phénomène dont la connaissance est nécessaire aujourd'hui si on veut comprendre ce qui se passe. Si on en reste les créationnistes d'un côté et les évolutionnistes de l'autre, on ne comprend pas la réalité de l'affrontement, et on ne voit pas que c'est pas un affrontement la Bible contre la science, mais c'est un affrontement à l'intérieur de la démarche scientifique. De la même façon que quand le cardinal Schönborn dit le darwinisme est faux, c'est une proposition scientifique.
À l'intérieur du champ.
C'est un énoncé rationnel. Qui n'a rien à voir avec la Bible. Et l'Intelligent Design Movement, c'est un mouvement qui est apparu, disons, à partir des années 70, surtout aux États-Unis, mais dans les précurseurs, il y a deux Français, Marshall Schulzenberger, qui est mort il y a 5 ou 6 ans maintenant, qui était un médecin, mais devenu mathématicien, et qui a démontré l'improbabilité de l'évolution darwinienne du point de vue du calcul des probabilités appliquées à la génétique. Non, et Schulzenberger était membre de l'Institut, enfin, c'était quelqu'un d'une grande envergure intellectuelle. Donc sa prise de position a fait mal. Et puis il y a eu la prise de position de Pierre-Paul Grasset. Donc là, c'est en 73. Schulzenberger, c'était en 65. Ce sont des mouvements qui n'apparaissent pas comme ça le lendemain d'une pluie pour disparaître le surlendemain. Et Pierre-Paul Grasset a critiqué justement l'évolutionnisme darwinien en montrant qu'il n'y avait pas ce qu'il mettait en avant comme cause de l'évolution était tout à fait disproportionné par rapport à l'effet attendu. C'est-à-dire, comme il dit, surtout la roue de secours du darwinisme, ça a été la théorie des mutations. En 1910, on a dit, il y a des mutations, donc du coup, le fait que les caractères acquis ne peuvent pas se transmettre par hérédité, ça n'a pas d'importance, puisque c'est le gène qui mute. Alors du coup, alors là, mutation, tout est possible. Hein, vous aviez un veau, le lendemain, vous avez un cheval. Enfin, oui. Mutation, voilà. Et les gens sont restés avec cette idée de la mutation, le surhomme, le mutant. Bon. Or, la mutation, maintenant, 1910, ça fait presque un siècle. Donc depuis un siècle, on commence à voir un certain recul sur ce qu'est la mutation. Parce que le problème, c'est de dépasser le mot pour arriver à la chose. Et à ce moment-là, on entre dans la science. Tandis que la plupart du temps, les débats, c'est de l'idéologie. C'est-à-dire, on en reste au mot dans l'acception la plus générale, et puis on ne voit pas, on ne va pas où fait. Et ce que avait remarqué Grasset, il dit, mais les mouches drosophiles sur lesquelles on fait toutes les mutations depuis, alors là, il y en a eu des millions et des millions de mutations de mouches drosophiles. Elles sont tous les labos en
nombre. Tant qu'on leur arrache les ailes, elles auraient dû apprendre à marcher.
C'est un petit animal pas cher. En plus, il se reproduit rapidement, donc c'est vraiment idéal. Mais il dit, mais depuis qu'on les martyrise, alors on leur fait pousser des jambes à la place des antennes, des antennes à la place des jambes, mais c'est toujours des drosophiles. Autrement dit, tout ce qu'on a expérimenté en matière de mutation est complètement hors sujet par rapport aux prétentions de la théorie de l'évolution, qui est que une espèce peut donner naissance à une autre espèce.
À la place des drosophiles, il y a longtemps que je me serais transformé en moustique porteur du chikungunya pour me venger. Là, tu vois, tu m'arraches les ailes, ça fait 12 000 générations que tu m'arraches les ailes, tu vois, je vais te faire un cadeau, moi. Même pas. Bon, c'est bien la preuve que...
Alors, là où arrive l'intelligent design, bon, ce sont des universitaires qui disent, mais au fond, ce qui est mis en avant dans l'évolutionnisme et le darwinisme, c'est que des changements considérables se produisent petit à petit, mais ces changements, non seulement on les a jamais vus, mais on n'a jamais proposé de mécanismes, proportionnés à ce qu'on attend. Et là, il y a donc un argument nouveau qui a été développé, en particulier par Michael Bay, qui est un biologiste, qui est l'argument de la complexité irréductible. Parce que la complexité, c'est quelque chose qui avait été complètement négligé depuis 3 ou 4 siècles. C'est quelque chose dont on a pris connaissance que de façon relativement récente, et je pense qu'on n'a pas encore tiré toutes les conséquences de cette idée que les êtres vivants, même les plus simples, même une bactérie, etc., sont d'une complexité effarante. Enfin, tellement effarante que de toute façon, on ne peut même pas la mesurer. Alors, à partir du moment où un organisme est complexe, eh bien, il ne peut pas évoluer graduellement, petit à petit. Et l'exemple classique que donne Bayes, c'est le piège à souris.
Oui.
Puis la souris, une tapette, il faut un ressort, il y en a pas, il faut, enfin, c'est pas très compliqué. La tapette, c'est bien plus simple que
une bactérie.
Mais il y a un point commun, c'est que ça ne peut fonctionner que si tout est là. Donc on ne peut pas imaginer une évolution graduelle pour passer de quelque chose d'autre à la tapette. Donc, comme l'évolution darwinienne, normalement c'est la sélection naturelle, c'est-à-dire c'est la survie du plus apte, mais il faut être apte à quelque chose. Donc pour être apte, il faut déjà fonctionner. Donc la sélection darwinienne ne peut s'exercer que sur des organes fonctionnels. Or, pour commencer à fonctionner, il faut être complet. Ouais. Et quand on est complet, on a plus besoin d'évoluer.
C'est la question de l'œil, la fameuse question de l'œil, qui est un petit peu plus compliquée que la tapette à souris, mais il reste pas moins qu'on ne comprend pas comment un œil a pu germer à la suite de mutations, dans la mesure où l'œil ne sert à quelque chose que quand il est terminé.
Voilà, et puis il n'est terminé que quand il a un cerveau qui est capable de déchiffrer les images, de restituer. Bon, donc évidemment, comment l'œil pourrait évoluer, bon, donner la fièvre Darwin, bon, c'est
ça qui m'amuse beaucoup. Puis aussi toutes les explications qui sont données couramment à l'évolution, par exemple, on entend, alors ça dans les émissions animalières à la télévision que je regarde beaucoup,
On vous explique que cette grenouille, elle s'est mouchetée d'otages jaunes parce que c'est un signal d'alerte pour les prédateurs. On dit attention, je suis une grenouille empoisonnée. Donc vous imaginez qu'il y a un congrès des grenouilles qui dit bon, comment on va signaler qu'on est empoisonné aux oiseaux parce qu'ils nous foutent la paix. Alors on devrait se faire tacher de jaune. Tiens, voilà une bonne idée. Bah oui, on va tous. Alors poussons très fort. Mais alors il y en a qui poussent. Comment tu fais pour avoir du jaune? Moi j'ai que du rouge. Écoute, je sais pas. Chacun pousse à sa manière. Voilà. Alors vous avez une explication, monsieur le rationaliste Goffman, à ça? Hein? Parce qu'il fait son malin là.
Je suis un littéraire, non, je fais pas mon malin, je souris. Serge, vous avez vous-même organisé l'opposition autour de vous, mais c'est l'opposition de Sa Majesté, elle sourit respectueusement.
Oh, c'est comme si c'était mon style. Non, mais moi j'attends un argument. Comment les grenouilles ont-elles décidé que jaune et rouge, par exemple, c'était danger, ne pas manger?
Par approximation successive, comme d'accord. La société elle-même.
Alors, à force de
après
regarder,
des milliers.
Tiens, ton grand-père était bleu, il a été bouffé par un piaf, tu devrais essayer le jaune.
Et c'est ceux qui avaient la bonne couleur qui ont survécu et qui se sont reproduits, comme d'habitude.
Ah, d'accord, c'est ça.
Mais enfin, là, c'est ce que peut vous répondre un littéraire.
Restez marxiste.
Restez marxiste jusqu'à un certain point d'un mot. Parce que je veux pas me mêler de ce savant débat qui me dépasse.
Moi, je comprends rien.
Comment comprend rien? Bon, enfin.
Non, mais c'est pas bien compris. Là, j'essaye de suivre, je comprends pas bien.
Pourtant, vous écoutez Radio Courtoisie.
Ben oui, mais.
Et il est.
Je fais un effort à part la tapette qui se referme sur le mal de la chatte, mais sinon, j'ai rien compris. Voilà,
chacun s'intéresse au sujet qu'il préfère. Hein.
C'est vrai que Serge sélectionne son opposition, hein, pas trop brillante quand même. Hein.
Je te remercie.
Enfin, il n'en demeure pas moins que les gens comme Michael Bay de l'Intelligent Design mettent en avant des arguments strictement scientifiques et ils mettent en accusation le darwinisme. Et de la même façon qu'il y a un professeur de droit qui s'appelle Philip Johnson, qui fait partie de ce mouvement de l'intelligent design, a développé une argumentation également tout à fait intéressante. Il a dit, mais au fond, ce que les évolutionnistes présentent comme argument en faveur de Darwin, serait-il recevable devant un tribunal? C'est-à-dire, moi qui suis professeur spécialisé dans la recevabilité des preuves, dans la qualité de l'argumentation juridique, qu'est-ce qu'il faut penser? Alors, son livre est tout à fait intéressant et décapant, parce que c'est une approche. Alors, il n'est pas du tout scientifique. Il se dit, mais moi, je suis juriste, j'ai l'habitude, mon métier, c'est d'analyser les arguments, et je dis, ces arguments, évidemment, ne sont pas recevables devant un tribunal. Alors, en plus, aux États-Unis, qui est un pays qui avance à coup de jugement, la position de Johnson a été très intéressante, et là encore, elle n'a rien à voir avec la Bible. Alors ça, c'est extrêmement gênant, si vous voulez, pour les darwiniens. Parce qu'évidemment, les gens d'Intelligent Design se disent anti-darwiniens. Ils disent, mais tout ce qu'on nous raconte... Parce que, évidemment, il faut quand même faire une précision. Il y a darwinisme et évolutionnisme. Donc, on pourrait dire, mais attention, moi, évidemment, tous ces mécanismes darwiniens, je ne peux pas y croire, donc je n'y crois pas. Mais enfin, l'évolution est un fait, donc je suis évolutionniste. Bon. La difficulté, c'est que ce qu'on enseigne à l'école, c'est-à-dire que le problème, c'est que les mots doivent avoir un sens précis. Le mot évolutionnisme aujourd'hui, le sens précis qu'il a dans la tête des gens, dans les manuels, c'est l'évolutionnisme darwinien. C'est une évolution graduelle, parce qu'à partir du moment où c'est plus graduel, on n'a plus de raison d'y croire. C'est le gradualisme qui l'a fait croire, qui l'a rendu crédible. Alors si on montre avec l'intelligent design et la tapette à souris que l'évolution graduelle est impossible, en réalité il ne reste rien. Donc le danger intellectuel est très important et
d'ailleurs on voit l'hystérie des réactions montre qu'ils ont parfaitement compris que le danger, parce que c'est vrai que d'engager des procédures pour faire interdire, pour pas qu'il y ait des cours, pour pas dans les collèges, dans les lycées, pour qu'on n'en parle pas, c'est un signe de mais quand même ils sont pas très à l'aise les darwiniens.
Non, parce qu'en réalité les quelques procès, par exemple, récemment il y a un procès à Dover là, qui vient d'être perdu justement par les créationnistes, parce qu'on leur a fait valoir qu'ils défendaient une position religieuse et que de ce fait le laïcisme oblige, l'école n'avait pas à enseigner une théorie religieuse. Donc ils avaient choisi une mauvaise tactique, ils ont perdu. Mais la tactique qu'ils vont adopter, je pense, prochainement, va être une tactique tout à fait différente. Ça va consister à dire, mais cette théorie de l'évolution qu'on veut nous enseigner, c'est une théorie religieuse. C'est pas une théorie scientifique. C'est une croyance. Et donc, on, compte tenu de l'article 1 de la Constitution américaine, eh bien, il ne faut pas l'enseigner à l'école publique.
Mais vous savez que l'argument religieux, il est, on reçoit un message d'un auditeur qui dit « Pourquoi ne dit-on pas que les opposants à la théorie darwinienne sont les musulmans intégristes ?» Je vous signale que je suis...
Il y a des juifs orthodoxes qui ont une revue qui s'appelle Contrast, par exemple, qui sont tout à fait opposants au religionnisme. Je veux dire, ça, c'est pas...
Quand j'étais au Galapagos, à cause de lui, je pouvais pas faire pipi où je voulais. Alors. Je garde un très mauvais souvenir des Galapagos et de Darwin.
Quelle idée d'aller au Galapagos.
Oui, c'est vrai, c'était une très mauvaise idée. Je suis dissuadé d'y aller. Alors.
Vous connaissez la Corrèze?
Moins bien.
Bah alors, vous voyez, c'est moins cher.
On en bouffe du Darwin au Galapagos.
Côté évolution, c'est pas plus riche. J'ai entendu sur une autre radio, nous dit une auditrice, que le Néandertal a disparu car trop gentil, alors que l'Homo sapiens c'était méchant. Qu'en pensez-vous?
Oui, alors, en fait, le. Bon, c'est un autre sujet, les
ancêtres de l'homme. Il y a au moins un Homo sapiens à cette table, c'est.
L'Homo néandertalensis, l'homme de Néandertal, à une certaine époque, on l'appelait Homo néandertalensis, parce qu'on disait c'est un ancêtre de l'homme, il est un petit peu le front bas, enfin, toujours la même chose, le gourdin. Bon. Et puis, évidemment, à partir du moment où c'est quelqu'un qui enterre ses morts, qui, etc. Donc maintenant, le Néandertal, c'est Homo sapiens néandertalensis.
Ah oui, donc ça.
Et vous avez un.
C'est la même chose.
J'ai eu un paléoanthropologue américain, dont j'ai oublié le nom, qui a dit mais si le néandertalien se promenait dans le métro aujourd'hui, mais évidemment rasé, en costard, etc., puis personne ne fera attention à lui.
Tant qu'on reste un gendarme en civil.
Les différences qu'il peut avoir par rapport aux sapiens sont de l'ordre des différences qu'on observe régulièrement entre nous.
Le jour où je vais tomber en manuel sur un gendarme qui écoute Radio Courtoisie, j'ai intérêt à numéroter mes bâtiments.
En fonction de ce que nous a dit le monsieur tout à l'heure, c'est qu'il y a des homo sapiens aussi.
Alors l'élément, parce qu'on parlait de l'église orthodoxe tout à l'heure, mais alors, il y a un élément intéressant aujourd'hui, c'est dans l'église catholique. Parce que, évidemment, le cardinal Schönborn a quand même donné un coup de semonce, enfin, donc il y a un petit assez intérêt. D'ailleurs, je remarque que récemment, la revue La Nef, a fait un dossier sur la théorie de l'évolution, mais évidemment eux ils essayent de préserver. Ils n'ont pas encore vu qu'il y avait un problème de scientifiquement
jardin.
Correct, donc ils sont tout à fait contre
bon, le jardin. Mais quand même.
Ils essayent de préserver en disant mais non c'est justement c'est Dieu qui crée un monde qui évolue. Oui, alors évidemment, là, il n'y a plus de problème, parce que toutes les impossibilités techniques de l'évolution sont réglées. C'est Dieu qui donne un coup de pouce à chaque fois.
Dieu envoie les anges vitales.
C'est très sympathique.
Tout le monde est content.
C'est très sympathique.
Ça, c'est
comme
du vitalisme,
théorie.
Ça s'appelle.
Enfin, disons, ce qu'on appelle l'évolutionnisme théiste, pour moi, c'est de la pensée magique. C'est-à-dire qu'on croit ce qu'on souhaite. Et on met Dieu à son service, et c'est Dieu qui fait ce qu'on a envie, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de conflit avec la science. Mais en réalité, il y a des conflits qu'on ne peut pas éviter. Et alors, ce qui est intéressant, et c'est pourquoi j'ai fait une lettre au pape Benoît XVI qu'on a repris dans ce numéro, c'est que apparemment aujourd'hui, le Benoît XVI est un des rares théologiens qui ait un peu étudié la question de la théorie de l'évolution sur le plan scientifique et qui ait conscience du fait qu'il y a la microévolution et la macroévolution et que ça n'est pas la même chose. Alors ça, il y en a même pas un pour mille parmi les théologiens qui sont allés dans l'analyse du mot évolution suffisamment loin pour distinguer ce qui arrive à la drosophile quand on lui chatouille un petit peu le menton, enfin, ou ce qui se passe dans les
il y a une chose qu'on sait, enfin, c'est que la sauterelle, quand on lui arrache les pattes, elle devient sourde. Vous le savez, ça. Vous ne savez pas?
Non, je ne sais pas, mais je
prenez une sauterelle. Vous la posez sur le bureau, vous dites saute, elle saute.
Ah oui.
Vous lui arrachez une patte, elle saute. Vous arrachez toutes les pattes, elle s'arrête de sauter. Conclusion, quand on arrache les pattes d'une sauterelle, elle devient sourde.
Alors, il y a des. c'est sûr, non mais ça
là,
c'est.
L'ingénieur, pendant un moment, il
et là,
dit
c'est...
ça y est, je suis tombé chez les fous, là. Il faut sortir en vitesse.
Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas une évolution graduelle. C'est une évolution.
C'est patte par patte. Voilà. Non, c'est graduel, quand même, d'une certaine manière.
Non, c'est discontinu.
Ah bon.
Non, justement, c'est non, mais tout est là. D'ailleurs, il y a un livre entier de Michael Denton qui dit, mais le vivant est discontinu, donc l'évolution graduelle est impossible parce que le vivant est par nature discontinu.
Ah,
parce
oui,
que,
mais
prenez la girafe,
c'est la marque de Zénon aussi.
La girafe dont le cou s'allonge.
Oui, et l'arbre qui pousse.
Le problème, c'est qu'entre le cou de l'âne et le cou de la girafe, il n'y a pas que la longueur, il y a le nombre de vertèbres. Donc ce qu'il faut expliquer, c'est pas simplement
l'apparition des vertèbres.
C'est l'apparition des vertèbres.
Ouais. Ça, c'est parce que les arbres, eux, ils poussent aussi. Quand ils disent, cette salope de girafe va me bouffer, je vais me grandir d'un mètre. La girafe dit, tu crois que tu veux m'avoir? Tac, une vertèbre de plus, clac, elle continue. Ouais. Et normalement, depuis le début de la création, les girafes devraient faire 12 000 mètres et les arbres 12 000, 2 mètres.
Au moins.
Au moins. Et les guépards devraient courir à 814 km à l'heure et les gazelles à 814,5. Non, mais c'est ça le truc que vous voulez nous expliquer, les évolutionnistes à la noix.
Ah oui? Exactement, vous avez mis le doigt dessus. Alors, c'est pour ça que j'insiste pas, parce que je me rends compte
perdu.
Que c'est pas terrible.
Donc un fait intéressant et qui me remplit d'espoir, c'est qu'il y a un pape qui est conscient du problème, qui est conscient que quand on dit évolution, si on désigne la microévolution, effectivement, là, on est dans la science. C'est-à-dire qu'on a plein d'observations. D'ailleurs, le livre de Darwin sur l'évolution d'espèces, c'est plein d'observations liées à la microévolution. Mais quand on est dans la théorie de l'évolution, telle qu'on l'a fait croire aux gens, c'est la macroévolution. C'est le passage d'une espèce à une autre. Et là, on n'est plus dans la science, puisqu'il n'y a absolument aucun fait disponible qui permette d'être considéré comme une preuve. Donc si on est dans la théorie macro-évolutionniste, on est dans une croyance, et à ce moment-là, on est dans le domaine du débat théologique ou débat mythologique. Comme disait Edmond Rostand, la théorie de l'évolution est un conte de fées pour grande personne. Mmh. Bon, mais à ce moment-là, c'est tout à fait honorable, hein, mais à ce moment-là, il ne faut pas prétendre...
Le Seigneur des Anneaux, alors là.
C'est une question de goût.
Ouais.
Hein, mais je mets tout à fait respectable. Donc...
Voilà, vous voyez qu'on peut lire le CEP, revue du Centre d'études et de prospectives sur la science, sans s'ennuyer. D'ailleurs, moi, je m'ennuie jamais en lisant, c'est un vrai bonheur. Il y a plein de petites choses très amusantes et très 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 édifiantes, au sens où ça permet de se construire une pensée nouvelle, originale, en dehors du scientifiquement correct, du blablatiquement correct qui nous assassine tous les jours et nous casse les oreilles. Le dernier numéro, c'est le numéro 35.
Qui est en cours de parution.
En cours de parution, nous dit monsieur.
Nous pourrons donc lire dès la prochaine semaine. Et il sera également dans nos quatre librairies parisiennes, que je vous rappelle rapidement, la librairie France Livre, la librairie Duquesne Diffusion, à Notre-Dame d'Auteuil, la librairie Guettier et la Licorne Bleue. Mais pour les gens qui ne sont pas de l'Île-de-France, ils peuvent toujours écrire au secrétariat de l'association pour avoir un exemplaire qui leur sera envoyé moyennant 8 euros franco de port. Et l'adresse à laquelle il faut écrire, c'est le CEP, 4 rue de Beauvais, 91 410, à Saint-Cyr, sous Dourdan.
Je peux dire un mot de plus en faveur de la licorne bleue, Serge, parce que je suis retourné la voir. J'ai raconté ici, il y a une semaine ou deux, que la vitrine avait été démolie par des voyous en marge des défilés contre le CPE. Et donc notre ami Thierry m'a dit que son assureur ne lui payait que la moitié de sa vitrine. Donc il se retrouve avec plusieurs centaines d'euros sur le dos. Donc j'indique à nos amis de l'Est et du Nord-Est parisien qu'il y a des livres à partir d'occasions très amusants, très rares, très originaux à partir de 2 euros, donc qu'ils fassent une bonne action, qu'ils abandonnent pour une fois leur bouquiniste et qu'ils aillent donc à la Licorne, c'est 4 bis rue Jules Vallès, dans le 11e, métro Charonne ou Fédère Chaligny.
Chaligny. Voilà, aider nos amis de la Licorne Bleue à s'acheter des vitres blindées.
Il a des vitres blindées, j'ai déjà expliqué, mais elles sont montées avec du chewing-gum parce qu'il ne peut pas tous payer d'un coup. Donc la vitre est intacte, elle est tombée intacte, mais il y a eu beaucoup de casse à côté parce qu'elle était montée sur du chewing-gum. Alors il faut lui offrir des...
De quoi acheter du chewing-gum qui durcit bien. Ouais. Merci Patrick, merci Dominique Tasso, monsieur Prival encore.
Je profite de l'occasion pour dire encore que le CEP tient un congrès national, colloque national comme chaque année, et cette année ça tombe à Paris et ça se déroulera du 23 au 24 septembre à Chevilly-Larue.
Bien. Nous y serons et nous en reparlerons. Oui, ma bonne vie.
Vous pouvez dire le thème.
Alors.
Ah, attendez, je crois que Dominique veut dire.
Non, le thème c'est résister et construire, c'est-à-dire comment justement ne pas se laisser avoir, ne pas s'abandonner, au contraire réagir.
Alors un pharmacien a eu la gentillesse de nous téléphoner pour répondre à l'auditeur qui posait une question à propos de Donormil. Il lui dit que ce n'est absolument pas arrangé avec toutes les familles de produits dangereux dont on a parlé.
Donc
vous pouvez continuer.
Vous pouvez vous en voilà. gaver
vous
jusqu'à...
avez le droit. Mais une auditrice nous dit, j'ai fait une dépression grave il y a une vingtaine d'années. Je me suis soignée par la méthode Vitose grâce au livre du docteur Vitose,
oui,
acheté aux éditions Teki.
Ah, c'est le docteur Vitose.
C'est grâce à cette méthode.
C'est formidable la méthode du docteur Vitose, bien sûr.
Réelle et simple que j'ai retrouvé le sommeil et me suis rétablie. Alors on nous demande, pour le plaisir de M. Goffman, de redonner le site de l'association d'aide aux victimes.
Transcourtoise.info.
Mais non.
Mais non, ne triche pas.
Attention, prenez votre souffle. http://www.ahahavam.com. Et c'est tout. Bon, Serge de Bé, très très bonne initiative. Serge de Bécache, ne pourrait-il pas mettre en dépôt sa revue à la librairie Facta? Parce que quand on souhaite acheter seulement un numéro, ce serait pratique.
Oui, on verra. Mais je ne sais pas si.
Allez faire un tour à la librairie.
Je ne sais pas si Ratier sera d'accord.
Allez faire un tour 4 rue de Clichy, Paris 9e, métro Trinité, et peut-être que vous tomberez sur un exemplaire du Libre Journal qui traîne.
On aurait oublié lors de la dernière signature, sans doute.
Oui. Alors, donnez-nous les coordonnées de la revue de M. Tassot, ainsi que les tarifs, donc on vient de le faire. Et je veux bien prendre un abonnement, nous dit cet auditeur sadique. Je veux bien prendre un abonnement à votre revue, à condition que vous abattiez l'otage.
On va raté, là.
On va mettre sur vous, on va voter démocratiquement. Vous êtes contre, vous. Il est mignon, non?
Moi, je suis contre. Il est trop mignon, l'otage.
Une petite otage.
Bon. Si on peut avoir un abonnement, on peut trouver l'otage.
Un abonnement perdu.
Alors, quelques annonces, peut-être.
Non, mais je voudrais donner la parole au marquis, d'abord.
Pas question.
Et après, c'est vous.
Ah, je croyais qu'on avait fini.
Non. Il reste 5 minutes. Marquis, vous avez 5 minutes. Vous avez 4 minutes pour nous parler d'Amsterdam.
De plein de choses. Ben voilà, oui, je suis allé à Amsterdam par les canaux. C'est-à-dire qu'on met 5 jours pour y aller. Par le Rhin, les canaux. Et on met 6 heures en voiture. Et j'ai découvert avec horreur que la ville avait bien changé. C'est-à-dire que les canaux sont toujours en place. Les maisons sont toujours bancales. Mais il y a à peu près 20 ans, la dernière fois j'y suis allé, c'était pimpant, frais, charmant. Et on aurait mangé par terre. Et aujourd'hui, on hésite à manger dans les restaurants. Et parce que évidemment, c'est très ennuyeux. Mais enfin, les Hollandais sont devenus multicolores.
Et, ah, ils ont un coup de soleil.
Il y a un coup de soleil qui est tombé là. Et alors, comme la drogue est en vente libre dans cette ville, qu'on voit jamais un policier, dans les rues piétonnes, à la nuit tombée, c'est assez inquiétant. Ouais. Voilà. Il y a aussi un autre signe des temps, c'est que maintenant les vélos, il y en a toujours comme avant, mais ils sont attachés. Avant, on les attachait jamais. Ah. Là, ils sont tous cadenassés. Parce que les gens ont peur qu'on leur pique. Qu'est-ce que je vous dirais d'autre encore sur le quartier, alors qu'on fait visiter maintenant à tous les touristes, sans exception, y compris les pépés, les mémés, qui font les petites croisières fluviales comme votre serviteur. Le soir, on les emmène dans le quartier rouge, car il faut absolument voir les filles en vitrine qui ont changé leur façon de faire. Avant, elles étaient dans la vitrine, mais habillées. Maintenant, elles sont en string dans la vitrine. C'est-à-dire que, comme quand on va acheter des pommes ou des oranges, on voit exactement ce qu'on va acheter. Et c'est très amusant de suivre un groupe de pépés, de mémés, le soir, qui se promènent dans le quartier rouge, où on voit quand même des filles superbes, je sais ce qu'elles font comme métier, mais ça ne les empêche pas d'être très belles, et on voit la mamie de 75 ans, pleine de vergétures, qui engueule pépère, parce qu'il regarde la jeune fille, enfin la jeune dame qui est dans la vitrine, en disant, quand même, elle a les fesses un peu lourdes, hein, etc. Et les types n'ont qu'une envie, c'est que maman remonte sur le bateau, et il restera bien là pour boire un coup, mais il y a un moment, la monitrice siffle la fin de la récréation. Cela dit, on peut toujours aller à Amsterdam pour aller au Rijksmuseum, voir les sublimes Rembrandt, et le Rijksmuseum a été réaménagé. C'est un vrai bonheur de se promener dans le Rijksmuseum où même s'il y a la foule, on peut voir les tableaux tranquillement, agréablement, et la ronde de nuit, ça reste quand même quelque chose d'assez intéressant, émouvant, etc. Pour le reste de la ville, pour ma part, je crois que j'y retournerai pas.
Et puis, j'ai cru deviner que vous aviez envie de secouer les puces d'un Bourbon, non?
J'ai envie de secouer les puces d'un Bourbon Orléans, alors je vais donner son titre, comme ça après on comprendra mieux. Son Altesse Royale, Monseigneur le Prince Charles-Henri d'Orléans, Prince de France, Comte d'Evreux, et par la grâce de son nom, oncle, maintenant duc d'Anjou, maître de l'ordre de Saint-Lazare, et qui va aller se commettre à la télévision dans cette émission dont je n'ai même pas le nom en tête.
Je suis une célébrité, sortez-moi là. Alors, ça confirmé.
Oui, bien sûr, il est parti. Et justement, ce matin, Point de vue lui consacrait 2 pages. On le montrait dans l'exercice de ses fonctions avec sa grand-mère en grand maître de l'ordre de Saint-Lazare, et on nous de Saint-Maurice, pardon. Et on nous explique qu'il part là-bas parce que c'est formidable, etc. Cela dit, il sera un peu en famille, puisque quand même, par sa grand-mère maternelle, il est Bragance, et qu'ils ont régné sur le Brésil. Mais moi, j'ai l'intention, avec votre permission, de lui faire une lettre dans le Libre Journal pour lui dire que ces conneries, ça suffit. Après avoir voulu être maire de Versailles, maire de Dreux et maire d'Eux, ce qui est la ville de sa grand-mère, mais ce qui lui eût été à merveille, le voilà parti dans ce genre d'ânerie. Je trouve ça déplorable, parce qu'il est né avec un nom, et aujourd'hui, il ne lui reste qu'une carte de visite.
Avant les messages, il ne faut pas oublier de remercier Charlotte Bouteloup de France 5 Inter, qui nous a encore fait une pub énorme à midi chez La Folle du Roi, nous a même rendu notre copyright sur France 5 Inter en disant que c'était nous qui avions trouvé ça, parce qu'il y a d'autres animateurs de France Inter qui parlent de France 5 Inter sans reconnaître notre droit d'aînesse et notre copyright. Merci Charlotte, continue, ça fait du bien.
Comme chaque année, l'Association pour la défense du maréchal Pétain célébrera la naissance du maréchal à Cauchy, à la Tour, dans sa ferme natale, le samedi 22 avril 2006. Ce sera le 150e anniversaire de cette naissance. Pour tout renseignement, téléphonez au 01 43 87 58 48. Samedi 22 avril toujours, Jean de Vigry signera Les Deux Patries, essai historique sur la patrie en France, de 15h à 18h, à Duquesne Diffusion, 27 avenue Duquesne, Paris 7e. Et le déjeuner de la griffe se fera le samedi 13 mai dans Paris. Attention, le lieu sera communiqué à l'inscription, mais il y a des autobus et des métros à proximité. Prix 50 euros, s'inscrire le plus vite possible à la griffe, 70 boulevard Saint-Germain, Paris 5e.
Merci Victoria, à la semaine prochaine, que Dieu nous garde.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris sur 95,6 MHz, à Caen sur 100,6, à Chartres sur 104,5, à Cherbourg sur 87,8, au Havre sur 101,1, au Mans sur 98,8. Pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous venez d'entendre le Libre Journal de Serge de Bekech avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 19 avril 2006 de 18h à 21h, en différé jeudi 20 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce Libre Journal a été réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative.